Vous écoutez
RMC.
RMC.
Les gens vont penser que c'est pas vrai. Florentino vient de m'envoyer un message du mariage de Ramos avec une vidéo de ses retrouvailles avec Beckham. Je vous jure que c'est vrai.
C'est quelqu'un d'une intelligence suprême, terrain, suprême, quelqu'un qui est aussi attachant. Parce que
on se calmer.
Ah non mais il a un QI qui est largement au-dessus du tien, Fred.
Le seul truc qu'on voit vraiment de palpable et qui est palpable visuellement, enfin. Rien dire ce que j'y mets.
Je ne donne pas de notes.
Ah bon.
C'est insupportable de donner une note. La poste vient de voir, tu reçois un mail en disant faut le noter. Tu regardes un film, on te dit s'il a plu, il faut le noter. Ben allez vous faire boire les gars.
20h-22h, Génération After.
Salut tout le monde, comment ça va? Bienvenue dans Génération After spécial Drôle de Dame. Comme tous les lundis, 20h-22h. Émission exceptionnelle ce soir, puisqu'on va lancer ensemble la semaine européenne sur RMC avec, pour l'Allemagne, Polo Breitner. Salut Polo.
Bonsoir mon cher Thibaut, bonsoir tout le monde.
Si tu devais noter le générique qu'on vient d'entendre quand même.
Thibaut, tu es encore jeune, je te pardonne.
Merci. Pour l'Espagne, Fred Hermel, salut Fredo.
Hola chicos.
Toi, le générique.
Ah, mais merveilleux.
Ouais.
Ah, mais c'est mes premiers grands fantasmes, les drôles de dames.
Non mais je parlais du...
Le générique est magnifique.
Oui.
Moi j'adorais Sabrina, la brune.
La chanteuse.
Non. Attends, elle était trop jeune. T'as pas connu la vraie série des drôles de dames, toi?
Non, mais... Les je Avengers. Parlais pas de ce générique-là, par contre. Je parlais du générique où on vous entendait...
Oui, il est un peu répétitif, celui-là. Faudrait un peu bosser, voilà. Là, alors, en régime.
Okay. Pour l'Italie, Johan Crochet, là. Salut, Johan.
Je vois qu'on n'a pas fait d'introduction spéciale, on n'a pas trop travaillé aujourd'hui.
Mais on l'a fait en direct comme ça, tu vois.
Ouais,
se passe en live, tu vois, c'est mieux.
Avec
c'est mieux.
Salut, Thibaut. C'est mieux préparé.
Ah bah voilà. Ça va, Johan?
Ça va nickel.
Faites attention, sinon je pars. Nico Germain est dans le studio à tout moment, il reprend les rênes, il n'y a pas de souci. Et Julien Laurence pour l'Angleterre. Salut Julien.
Salut Thibaut, salut à tous.
Votre programme en 15 secondes. Tiens, tu fais le malin, Johan, vas-y, commence.
Eh ben, on va évoquer la Lazio et le bon début de saison. Alors, c'est pas forcément sur le plan comptable encore que 10 points après 6 journées, mais le jeu est plutôt intéressant, la progression des joueurs est intéressante, le nouvel entraîneur met des choses en place qui sont elles aussi intéressantes. Donc c'est à suivre. On va parler de Dusan Vlahović qui est en difficulté à la Juve malgré son doublé ce week-end contre le Genoa. Il commence à y avoir quelques doutes sur sa capacité à être très très bon au haut niveau. Et puis on fera un petit tour à Rome encore une fois pour un jeune buteur ce week-end.
C'est ça le programme?
Exactement.
Bon, ok. Le programme Fredo ce soir en 15 secondes.
Bien entendu, on va parler de l'annonce de Griezmann qui en Espagne a naturellement une résonance spéciale. On va parler de cet horrible derby, l'un des plus mauvais que j'ai vu depuis longtemps, et surtout de tous les incidents qu'il y a eu. On va revenir là-dessus. Et on parlera de la première défaite du Barça. Et pour la première fois de la saison, je vais dire du mal.
Du Real Madrid. Ah, pardon.
Non, du Real, jamais.
Ouais, jamais. Bah, Polo, ton programme.
Bon, évidemment, on va revenir sur le top spiel de samedi entre le FC Bayern et Bayern Ulfir Leverkusen, avec beaucoup d'éloges de la part de la presse allemande. On va se poser la question de savoir si on va pas avoir un championnat des plus serrés. Et ça fait longtemps que c'est arrivé, parce qu'il n'y a pas que ces deux équipes. Et puis, j'ai une minute anti-libérale pour changer. On va voir un petit peu.
Julien, ton programme.
Pour moi, c'est la crise à Manchester United et la pression sur Ten Hag après l'humiliation hier contre Tottenham à Old Trafford. On va parler de Cole Palmer, 4 buts avec Chelsea samedi après-midi, ou Cold Palmer, comme on l'appelle en Angleterre. Et puis on aura une minute un petit peu mémoire, un petit peu émouvante.
On vous attend au 32-16, comme tous les lundis soirs, 21h45. Les drôles de dames sont à vous. Vous nous appelez, vous êtes en direct face aux drôles de dames. Une question, vous voulez les interpeller, vous nous appelez au 32-16 et vous êtes en direct sur RMC. On est en direct sur YouTube, la chaîne de l'After, @after-foot. Et je vous lis également sur le direct studio. Et à 22h, l'After avec Nico Jamin. Salut Nico.
Salut Thibaut, salut les drôles de dames. De grosses actus ce soir, un gros after à venir, vous le savez. La mise à l'écart de Ousmane Dembélé, avoir Arsenal demain soir, bien sûr. Je crois que vous allez parler d'Arsenal ce soir avec Julien. Luis Enrique a-t-il raison d'être ferme, intransigeant avec ce joueur? Quelques infos à vous donner sur ce qui s'est passé dans le vestiaire après le match contre Rennes. Walid veut parler de Marseille, la défaite de l'OM qui ne l'inquiète pas malgré cette triste copie rendue à la Méno hier à Strasbourg. Et puis, bien sûr, Antoine Griezmann, carrière en bleu terminée, 33 ans. Un des frérots peut-être, ou un cousin peut-être de Julien Laurence. Comprenez-vous sa décision? À quel point va-t-il manquer l'équipe de France? Et est-ce que vous placez derrière le panthéon des grands footballeurs français? On fera le débat avec Daniel et Walid ce soir à partir de 22h. Mon cher Thibaut.
À tout à l'heure, Nico. Merci beaucoup. Griezmann, on en parle dans un instant. On veut la vie des drôles de dames. Mais d'abord, vous le savez, le jeu de foot le plus attendu de l'année est sorti tout juste. juste eSport FC 25 ce vendredi. On vous l'offre sur RMC grâce à Micromania Zing. Et si vous avez la main chanceuse, vous pourrez gagner la Super Bowl RMC avec à l'intérieur le jeu, une télé et la PS5. Au moment du top inscription, vous aurez 5 minutes pour envoyer Super par SMS au 732-16. Donc soyez bien à l'écoute. Mais pour commencer cette émission, la France est triste. La nouvelle est tombée en fin de matinée. Elle nous a tous séchés. Antoine Griezmann arrête les Bleus. Retraite internationale, 137 sélections, 44 buts, champion du monde, vice-champion d'Europe. C'était l'équipe de France depuis 10 ans. Beaucoup d'hommages dans la journée. Vous allez tous sur rmcsport.fr. Et ce soir, à 20h06 sur RMC, je voudrais les réactions des drôles de dames et ce qu'on dit dans vos pays. Honneur, bien évidemment, au deuxième pays de Griezmann, Fredo, l'Espagne.
Et son premier pays footballistique. Moi, dernière chose, c'est quels sont. Bien sûr, on en a beaucoup parlé en Espagne. Très très rapidement, ça a été la une de tous les sites sportifs en Espagne. Et vous savez qu'il y a 4 grands journaux sportifs, deux à Barcelone, deux à Madrid, sans compter ceux en région. C'est quelqu'un qui est très aimé en Espagne. C'est quelqu'un qui a été formé par le football espagnol. Mais comme un signe du destin, rapidement, l'information a été un peu balayée par la remise en forme surprise de Kylian Mbappé.
Oui, et finalement dans le groupe.
Voilà le truc. Donc c'est pour dire le symbole, parce que.
Ah oui.
Voilà. Je pense que tout le monde a compris ce que je veux dire entre les lignes. C'est que rapidement on a parlé de ça et qu'on a reparlé de ce qu'on va évoquer plus tard, qui est les problèmes pendant le derby madrilène d'hier soir. Donc oui, je pense qu'Antoine Griezmann, je me permets une vraie réflexion parce que j'ai beaucoup pensé à lui aujourd'hui. Antoine Griezmann n'a pas forcément. Ça n'a pas eu forcément le retentissement en Espagne, même s'il a été important que ça méritait. Parce que je pense qu'Antoine Griezmann est un footballeur qui plaît surtout aux grands connaisseurs de football. C'est-à-dire que pour apprécier à sa juste valeur le niveau stratosphérique qu'a eu Antoine Griezmann et qu'a toujours aujourd'hui Antoine Griezmann, il faut vraiment bien connaître le foot.
Et ça, il n'y en a pas en Espagne ?
Si, mais... La grande majorité des gens n'est pas spécialiste de foot. Tu peux être fan de foot sans bien connaître le foot. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand tu parles à des entraîneurs, moi je me souviens un jour d'une interview très longue avec Simeone juste après le mondial de 2018, la manière dont il parlait de l'intelligence de jeu de Griezmann pendant les matchs de l'équipe de France, mais il y avait des lumières dans ses yeux, il y avait des étoiles dans ses yeux. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on voit quand on est forcé, quand on n'est pas un grand spécialiste du foot, quand on ne vit pas là-dedans, quoi. Donc je pense que Griezmann est un immense joueur, mais qui n'aura jamais la reconnaissance réelle parce que son jeu est trop difficile à comprendre pour être totalement apprécié.
En Espagne, hein, on est d'accord.
En Espagne.
Chez nous, il l'a quand même. Hein.
Bon. Je vais te dire, si il était reconnu comme ça, il serait capitaine et il serait encore là.
Ah oui, mais ça, après, ça dépend.
Tu vois ce que je veux dire?
Oui, mais ça dépend d'autre chose.
Mais c'est l'un des grands joueurs de l'histoire de France.
Le capitaine.
Non, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Antoine Griezmann est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de France.
Oui, bien évidemment.
Et je le dis d'autant plus facile qu'on se parle plus depuis 4 mois. Depuis 4 ans.
Avec Griezmann?
Et Griezmann, on se parlait plus, puis à un moment, il m'a bloqué. On a changé le téléphone, il a pu répondre à mes messages. Ça arrive, c'est la vie, c'est comme ça. Donc, je me sens d'autant plus.
Il m'a jamais répondu en plus.
Ouais, mais moi j'ai eu une relation très très proche avec lui. À un moment, il a coupé avec beaucoup de gens, dont avec moi, et je le regrette. Et voilà, parce que je l'aime beaucoup. Mais voilà, donc je me sens d'autant plus libre aujourd'hui de dire ça.
Antoine, si
moi,
tu nous écoutes, débloque Fred Hermel.
Mais je veux dire le truc, c'est que non, mais il m'a pas bloqué sur Twitter, mais je veux dire, il répond plus à mes messages. Mais et puis après, vous savez, les footballeurs, ils changent de téléphone tous les 6 mois.
Ouais.
Mais
mon ex m'avait dit pareil.
Non, mais la question, c'est de dire aujourd'hui, moi, je suis très triste parce que je pense que Griezmann ne voulait pas partir. Voilà.
Est-ce que chez vous, en Allemagne par exemple, Polo, on en a beaucoup parlé, qu'est-ce que toi ça te fait cette retraite de Griezmann?
Bon, grand classique du football allemand, c'est traité d'une façon informative, donc on sort la dépêche et on sort en 3 mots, Antoine Griezmann arrête sa carrière internationale, mais ça c'est oublié, le débat allemand, après l'Euro 2016, ça veut rappeler la France, l'équipe de France élimine l'Allemagne,
bien sûr.
Et on a eu un débat en Allemagne très important à l'époque, et il ne parlait que d'une seule personne. Rappelez-vous, les Allemands étaient champions du monde 2014, etc. Et c'était une forme de cassure, l'Euro 2016. Et on se posait la question, pourquoi est-ce que l'Allemagne a été éliminée, etc. Là, après, on pourra revenir sur le scénario de la demi-finale. Mais l'Allemagne disait, mais on est incapable de produire des joueurs comme Griezmann. C'est-à-dire que dans le scénario, dans les joueurs qu'on forme, etc., on ne peut pas produire des joueurs comme Antoine Griezmann et comme le dit Fred le très justement. Il est certes français en équipe de France, mais son pays, j'ai presque envie de dire d'adoption, c'est l'Espagne, quoi. Donc c'est son optimum en Allemagne. C'est l'Euro 2016 après les Allemands qui disent mais comment se fait-il qu'on n'arrive pas à produire des joueurs comme lui. Donc c'est une forme de reconnaissance très importante. Ensuite, dans le panthéon du foot français. Moi, je suis pas tout à fait d'accord pour le mettre dans les trois premiers, déjà parce que
j'ai pas dit les trois premiers pour moi. Je dis c'est l'un des meilleurs.
Non, mais parce qu'il y en a certains qui le mettent dans les trois premiers parce que
moi je le mets dans les trois premiers. Je vous le dis.
On oublie beaucoup Raymond Coppa quand même. Et la deuxième chose, c'est qu'Antoine est le joueur d'un club. L'Atlético Madrid, lorsqu'il a été transféré au Barça, à ma connaissance, ça a pas été la plus grande réussite du monde, si je me rappelle bien.
À la Real Sociedad, il a quand même été très bon, hein. Il a passé le niveau compétitif en bossant avec Simone à l'Atletico. Il est devenu un grand joueur à ce moment-là, on est d'accord.
Sauf qu'on peut se poser la question de savoir si l'Atletico est un club qui embête tous les grands clubs ou si l'Atletico est un grand club qui se fait battre par des autres grands clubs. Antoine Griezmann ne fait pas partie de mon podium, justement parce que Zidane a réussi au Real, parce que Platini a réussi à la Juve, et parce que Raymond Coppa a aussi réussi en Espagne.
Après, c'est aussi simple que ça. Et souvent, le débat, c'est aussi pour les joueurs, pour leurs accomplissements en équipe de France. Et là, je pense qu'on peut le mettre très haut, et dans ce fameux.
Si c'est une question de titre, on peut mettre beaucoup de personnes devant.
Non, pas de titre. Coppa, non, justement, il en a, entre guillemets, qu'un, mais qui est magnifique.
Titre mondial,
il gagne l'Europa League avec l'Atlético, avec le but en finale contre l'OM.
Julien, est-ce qu'on en parle en Angleterre ?
Oui, on en parle. Je pense que les Anglais auraient beaucoup aimé avoir Antoine Griezmann dans leur championnat. Ça aurait pu se faire à un moment. Il a eu beaucoup de grands admirateurs.
Manchester United.
Oui, bien sûr. Sir Alex Ferguson. Alors, il était très jeune quand il s'en va. Mais même après, une fois que Ferguson était parti, à Manchester United, où il y avait encore beaucoup l'influence de Ferguson, il avait poussé pour que Griezmann vienne. Je pense que les Anglais ont toujours été convaincus que le jeu de Griezmann aurait très bien fonctionné en Angleterre, que dans l'intensité dans laquelle il évolue lui aussi, par ses courses, ses efforts, son pressing, tout ce qu'on veut, il y avait ce côté flair aussi que les Anglais ont du mal à créer. On va parler de Palmer tout à l'heure, tu peux parler d'un Glenn O'Dowd, d'un Gascoigne, mais les Anglais n'ont pas vraiment ce genre de joueur-là qui est créateur, qui a ce flair comme Griezmann l'avait, donc ils auraient beaucoup aimé l'avoir avec eux, je pense. Ça s'est jamais fait, ça se fera plus maintenant, hein. Il ira aux États-Unis de toute façon après. Mais ouais, c'est vrai qu'ils en ont parlé aujourd'hui parce que à chaque compétition, vous savez que je travaille un petit peu parfois lors des compétitions pour les Anglais aussi.
Et
c'est un petit peu comme ce que disait tout à l'heure Polo. Les Anglais étaient parfois en admiration en 2018, en 2022 sur les matchs et les performances de Griezmann.
Mais alors, simplement une petite précision par rapport à ce que dit Julien. Manchester United, il a été très très proche, mais c'est uniquement parce que sa femme n'a pas voulu qu'il n'y ait pas allé. Hein. Sa femme refusait d'aller en Angleterre.
Je pense qu'il aurait aimé la première ligue. Ouais.
Et je vais même dire que ça a été une source de remous dans le couple.
À quelle époque ça ? Quelle période ?
Il y a longtemps. C'était bien avant qu'il parte au Barça. Okay. Hein. C'était au moment.
Ouais, c'est avant la Coupe du Monde. Enfin,
2016,
2018,
peut-être un peu comme ça. Je crois que c'est 2015-2016. Ouais. Ouais.
Antoine Griezmann, vu d'Italie, Johan.
Joueur très apprécié, joueur qu'aurait bien aimé avoir la Nationale, pour le coup. Joueur créatif, évidemment. Joueur aussi bagarreur. Polyvalence là, et en tout cas cette capacité à faire les deux phases de jeu était très appréciée. En Italie, il y a des commentateurs, et j'ai regardé le Pays-Bas-France de l'Euro à la télé italienne, et très souvent dans les actions, il l'appelait pas Griezmann mais le petit diable, surnom un peu affectueux qu'ils avaient envers lui, le petit diable parce que capable d'être très sournois mais dans le bon sens du terme avec le ballon, d'être dans l'imprévu, de réussir toujours à parvenir à ses fins avec des gestes techniques assez élégants, mais aussi d'être le côté rentre dedans, le côté bagarreur qu'il avait eu avec Simeone. Joueur majeur, je concède assez le côté puriste, pour les puristes essentiellement, parce que pas un joueur si spectaculaire que ça pour beaucoup qui préfèrent les joueurs très dribbleurs, très un contre un, très vitesse, très frappe de 30 mètres en lucarne, pas forcément ce type de joueur-là, beaucoup plus fin, raffiné, beaucoup plus pour les puristes. Et effectivement, comme Polo, hein, c'était par contre traité de manière très informative. Mais après, quand on discute avec des journalistes qui ont un petit peu plus de bouteilles et qui s'intéressent vraiment au football, c'est un mec qui est tout en haut.
T'es d'accord avec moi ?
Ouais, plutôt, ouais.
C'est un joueur qu'on apprécie quand on connaît vraiment très bien le foot.
La retraite internationale de Griezmann, on en parle dans l'after hein, en longueur bien évidemment à partir de 22h. Dans un instant on va parler de Griezmann qui était hier sur la pelouse avec l'Atlético face au Real, le derby de Madrid décevant avec Fredo plus la crise qui couve à Manchester United. Ce sont les drôles de dames ce soir comme tous les lundis. A tout de suite sur RMC.
RMC, 20h-22h, Génération After,
Thibaut Giangrande.
Lundi soir, avec les drôles de dames sur RMC, comme toutes les semaines, Julien Laurence, Paulo Breitner, Fred Hermel, Johan Crochet, jusqu'à 22h dans un instant, le derby madrilène, hier soir décevant, plus la crise qui couve à United. Mais d'abord, c'est le moment de vous inscrire pour tenter de gagner, grâce à Micromania Zing, la Super Bowl RMC avec à l'intérieur une télé, la PS5 et le jeu eSport FC25. Envoyez dès maintenant Super par SMS au 732-16. Super au 732-16. Vous avez 5 minutes pour vous inscrire. Bonne chance à tous. Ce derby, Fredo, on l'attendait, on l'espérait, on l'a vu et on a été déçus. Un match nul dans tous les sens du terme.
Okay. On va commencer par le sportif rapidement, puis après on va parler de tous les problèmes qu'il y a, parce que là c'est catastrophique.
Oui, ça a été nul partout en fait.
Ça a été nul partout. Deux entraîneurs qui se sont trompés. Simeone en refusant le jeu pendant un long moment, en étant très attentiste. Et Ancelotti en se plantant totalement dans ses changements de fin match. C'est hallucinant. C'est-à-dire que l'égalisation de Correa après l'ouverture du but, vers du score par Militao, très belle demi-volée. Voilà, faire rentrer Fran Garcia comme ailier gauche, faire rentrer Lucas Vazquez comme ailier droit, faire sortir Vinicius, faire sortir Rodrigo, Modric, alors que Modric c'est vraiment le type, même s'il est un peu crevé, ben voilà, Modric il garde la balle, etc. Mauvaise gestion de d'Ancelotti et ça il faut le reconnaître. On dit suffisamment de bien de Carlo pour le reconnaître ici et ça a été un peu expliqué par tout le monde ici en Espagne quoi. Voilà, il y a une mauvaise gestion. Sportivement, ça a été un match lent, pas beau. Je vais même te dire, il y a même pas eu assez de violence. Je veux dire sur le terrain. C'est-à-dire, tu sais, cet affrontement à la limite de derby. Il y a eu des fautes, il y a eu des fautes pas terribles, pas belles, mais il n'y a pas eu cette intensité qu'on voilà. C'était une purge. Enfin, quelqu'un dit c'était une purge. Oui, oui.
Mais est-ce qu'il y en a un des deux finalement qui s'en sort pas mal d'un point de vue comptable? Tu te dis sort de où ils étaient tous déçus.
Le Real, quand tu ramènes un point d'un derby chez l'Atlético, la dernière équipe qui t'a battu, parce que ça fait 40 matchs que le Real n'a pas perdu, la dernière fois c'était là-bas, à l'Atlético, il y a un an. Donc finalement c'est bien. Mais sauf que bon, c'est 90 plus 6 minutes, hein, le but de l'égalisation de Correa. Donc le Real a perdu 2 points bêtement, mais finalement, comme le Barça avait perdu la veille, on y reviendra tout à l'heure, tu reprends un point sur le Barça après un derby à l'extérieur. Donc sur le papier, c'est pas mal.
Donc il n'y avait pas Mbappé parce qu'il devait être absent 3 semaines depuis une semaine. Alors, mais finalement, là, on apprend ce soir qu'il est dans le groupe pour le match de Ligue des Champions contre Lille mercredi.
Alors il faut préciser une chose, c'est que le Real Madrid, qui avait parlé de problèmes lésions musculaires, ouais. Le Real Madrid ne donne jamais de temps de convalescence. Il est toujours, on attend, c'est pendiente l'évolution, nous sommes, on va regarder l'évolution, tu vois,
il y a quasiment plus aucun club qui est comme ça.
Et c'est vrai qu'on s'attendait à 3 semaines. Alors, les médecins consultés par la presse espagnole, en général, on dit voilà, ben ça, tel truc, c'est 3 semaines, etc. Là, on a quand même le sentiment que la lésion était très, très petite, ou alors c'était une grosse contracture avec risque de lésion. Tu vois, et que c'est lui-même qui avait demandé d'arrêter. De sortir. Donc, on pense que c'est tant mieux, hein, s'il se remet bien, et donc il est dans le groupe pour Lille. Tout va se jouer, il est dans la convocation. Tout va se jouer lors du dernier entraînement de demain, avant le match.
Ouais, le match est mercredi.
Mais ce qu'il y a de clair, c'est que s'il y avait le moindre risque d'une rechute, mais il ne serait pas dans le groupe, quoi. Ouais. Et en tout cas, s'il se sent pas 100% mercredi, parce que ça fait qu'une semaine qu'il n'est pas là, il jouera pas, quoi.
Il y aura pas, je le précise, les retrouvailles Mbappé, puisque c'est son frère, Ethan, voilà. Le Lillois, qui n'est pas là, qui est blessé. Match interrompu un quart d'heure.
Moi, c'était absolument lamentable. Je suis très inquiet. Moi, depuis le Covid, de toute façon, je reconnais plus ma Liga. C'est-à-dire qu'il y avait eu vraiment un travail, très bien, on peut reprocher beaucoup de choses à Tebas, contre les insultes, contre le racisme, etc. Avec des gens qui étaient dans chaque des représentants de la Liga, chaque stade, qui notaient, qui permettaient l'identification, qui demandaient au club d'identifier ceux qui avaient des comportements au-delà du racisme, qui étaient d'atteinte à la dignité humaine. Il y avait beaucoup de supporters qui avaient pu être expulsés, etc. Mais depuis le Covid, il y a une résurgence du racisme, une résurgence de la violence en Espagne. Tout a commencé par un appel de certains ultras à venir masquer au stade, l'ultra de l'Atlético, afin de pouvoir insulter, faire des insultes racistes contre Vinicius sans être repéré par les caméras. Parce qu'automatiquement, voilà. Et on a vu, alors ça n'a pas été un mouvement énorme, mais on a vu, parmi les ultras qui ont créé les problèmes hier, de mettre, il y avait des gens qui avaient des casques et des masques, comme des masques, vous savez, les masques de catch mexicains, là, voilà, c'est, voilà. Il y a eu, on le sait, alors ça n'a pas été énorme, mais il y a eu des insultes racistes, des cris de singe, etc., par une petite partie du public. Mais surtout, ce qu'il s'est passé, c'est que Courtois, qui a subi des insultes pendant tout le match, à un moment, il était côté ultra de l'Atlético, qu'on appelle le Frente Atlético, le Front Atlético, et simplement, il, au moment où il y a le but du Real, il se retourne et puis il regarde les supporters ultra de l'Atlético. C'est considéré comme une provocation. Et là, des briquets, plein de sandwichs, enfin plein de trucs. L'arbitre a été très bien. Il applique le protocole. 10 minutes d'arrêt. On rentre au vestiaire, donc le temps de revenir, etc. Alors moi, il y a une image qui me semble assez pathétique. Vous avez notamment Simeone et Jiménez, deux piliers du club, qui étaient, s'il vous plaît, qui allaient demander presque à genoux aux ultras de pas faire de problème, s'il vous plaît, etc. Le jeu reprend. Il y a toujours des insultes, mais ça peut, voilà, ça se joue. En plus, il faut vraiment être con parce que l'Atlético avait plutôt bien réagi après le but du Real. Et en fait, les ultras ont cassé l'élan de leur équipe. Donc, en plus, ils sont racistes, ils sont profondément bêtes. Et ce qui s'est passé à la fin, et c'est ça qui est le pire, c'est qu'il y a l'égalisation. Et que font les joueurs, après le match? Ils vont voir les ultras qui avaient provoqué et les applaudissent, merci de nous accueillir, etc. Contre l'avis d'une partie du public qui a sifflé les joueurs de l'Atlético pour être allé applaudir les ultras. Je termine sur une chose.
Ouais.
Deux grands clubs, et c'est pas un hasard si c'est les deux plus grands clubs d'Espagne. Le FC Barcelone et le Real Madrid ont éliminé leurs ultras. Ont éliminé des nazis, c'était des nazis. Ils ne sont plus dans le stade. L'Atlético, il n'y arrive pas. Et je termine sur une phrase magnifique.
C'est deux fois que tu dois terminer.
Oui, non, mais c'est un sujet parce qu'il y a tellement de bêtises qui sont dites.
Bien sûr.
Pardonne-moi. Et les copains vont me pardonner. Il y a eu une phrase mythique d'un type qui s'appelle Marc Corano, qui est un type qui écrit parfois dans Marca, etc. Bref. Et qui a fait un tweet en disant, en Espagne aujourd'hui, on traite de nazi ta grand-mère parce qu'elle va à la messe tous les dimanches, mais on est incapable de virer 30 véritables nazis qui sont dans un stade de foot à l'Atlético.
Merci Fredo. Dans un instant, on parle d'un autre gros choc qui, lui, s'est mieux passé en tribune, du moins. C'est celui en Allemagne qui a vu l'affrontement entre le Bayer Leverkusen et le Bayern Munich. Et on commencera par la crise à Manchester United qui a pris 3-0 ce week-end contre Tottenham. C'est Génération After, spécial drôle de dame avec Julien Laurence, Paulo Breitner, Johan Crochet, Fred Hermel. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Thibaut Giangrande.
Il est 20h30, merci d'être là sur RMC. On lance ensemble une magnifique semaine européenne qui nous attend. Le retour de la Ligue des Champions mardi, mercredi, Arsenal Paris Saint-Germain demain, on en a parlé, Lille Real Madrid mercredi, il y aura Monaco et Brest, également la Ligue Europa jeudi. Les drôles de dames sont là jusqu'à 22h. Fred Hermel, Johan Crochet, Paulo Breitner et Julien Laurence. La minute de Julien dans quelques minutes. On va parler de l'autre choc du week-end, le match nul, le top spiel accroché entre le Bayern et le Bayern. Mais d'abord, Julien, Manchester United, on a cru cet été qu'il y aurait eu un mieux, que ça allait dans la bonne direction. On a prolongé Ten Hag et finalement, on parle déjà de le virer.
Ouais, il a deux matchs en gros pour sauver son poste. Porto jeudi soir en Ligue Europa et puis surtout Aston Villa dimanche en championnat. Sincèrement, je pense que même s'il ne perdait pas les deux, même s'il en gagnait un, même s'il en gagnait deux, la crise elle est toujours là. Clairement quelque chose ne fonctionne pas. Ils ont été humiliés hier à domicile par Tottenham, une défaite 3-0. Alors bien sûr, il y a le carton rouge de Bruno Fernandes juste avant la pause, qui est jamais un carton rouge, qui est très sévère de la part de l'arbitre. Mais même avant ça, même avant le carton rouge à 11 contre 11, ils se faisaient démonter par Tottenham, qui avait marqué après 3 minutes de jeu. Je l'ai dit plusieurs fois, c'est pas la première fois sur Erik ten Hag. Il est pas au niveau. C'est, y a rien qui fonctionne. Y a aucun plan, aucune idée directrice. Y a pas de tactique. Y a pas d'idée. Y a pas de style. Y a aucune philosophie. Il se passe rien. Avant le match de dimanche, il nous parlait encore de lui laisser du temps. Mais combien de temps il veut? C'est sa troisième saison. Maintenant, il a dépensé 800 millions d'euros depuis qu'il est arrivé. Hier, c'était son équipe. Onana, c'est son joueur. Mazraoui, c'est son joueur. Delir, c'est son joueur. Lisandro Martinez, c'est son joueur. Ugarte, c'est son joueur. Zirkzee, c'est son joueur. Sur le banc, Hoyland, c'est son joueur. Mount, c'est son joueur. C'est ses joueurs. C'est son effectif. C'est l'argent qu'il a dépensé lui. Il demande encore du temps, il demande encore à la fin du match, il nous dit oui, faut pas chercher une progression de mon équipe. Mais comment ça, tu veux pas faire progresser tes joueurs? Donc pour moi, il aurait jamais dû rester en poste cet été, on l'avait déjà dit plusieurs fois, ils auraient dû le renvoyer à ce moment-là, le limoger à ce moment-là, ils l'ont gardé, surtout parce qu'ils trouvaient pas un successeur adéquat, on va dire. Aujourd'hui, on en voit, ils sont 12e, cette saison, ils ont battu Fulham, Southampton et Barnsley. C'est les seules trois victoires qu'ils ont cette saison pour l'instant. Une équipe de Twente qui avait pas joué en Coupe d'Europe depuis plus de 10 ans. Va à Old Trafford la semaine dernière et prend un point. On a vu des équipes se balader contre eux et au final, ça reste insuffisant, bien trop insuffisant. Et pour moi, Erik ten Hag n'est plus du tout l'homme de la situation. Et je sais même pas pourquoi Manchester United lui donne encore deux matchs pour se sauver.
Johan, toi qui as suivi ten Hag, qui l'a connu bien avant, évidemment, fan du foot néerlandais que tu es, est-ce que même toi, tu n'y crois plus?
Non, mais j'ai un peu du mal à le reconnaître. Je trouve que... Vu que je suis les médias néerlandais, j'ai à peu près les réactions d'après match à chaque fois de ten Hag. J'ai du mal à comprendre où il veut aller. J'ai du mal même à comprendre un peu ses explications. Je trouve qu'il se répète sans arrêt et il détourne un peu le sujet des difficultés de ses mises en place et de ce qu'il demande à ses joueurs et des performances et des prestations de ses joueurs. Pareil, c'est toujours un peu pareil quand tu confirmes un entraîneur, mais tu sais très bien que tu en as contacté 10 avant. Et que les 10 t'ont dit non, ouais. Nous faire croire que ten Hag, non, il y a pas de problème, c'est l'homme de la situation, alors que t'en as cherché 10 avant lui. Bon, un peu de mal aussi. Est-ce que le vestiaire y croit, alors que le vestiaire a aussi lu qu'il y avait 10 mecs qui avaient été sondés avant qu'on décide de repartir avec ten Hag. Bon, il y a pas mal de trucs curieux dans la gestion de United en ce moment. Et oui, ten Hag, je pense qu'il faut que ça s'arrête et qu'il reparte sur un projet où, qui repart sur autre chose parce que là il est ouais moi le sentiment que j'ai à chaque fois que je lis ces trucs c'est qu'il est perdu
ouais. Comme ses joueurs. Manchester United qui sera à Porto jeudi à 21h. On suivra ça et en fonction du résultat, on suivra la suite de cette soirée. Gros match ce week-end. Il y avait le derby madrilène et puis il y avait ce Bayern Munich, Bayer Leverkusen, Polo. Voilà. Là, ça a tenu ses promesses. Hein. Autant on a dit qu'on était déçus du derby madrilène. Là, non, c'était un bon match.
Ouais. Là, je sais pas si c'est un bon match. En fait, tactiquement, c'est extraordinaire. Mm-hmm. Ce qui est génial, en fait, c'est que personne ne s'attendait à ce scénario. Et le scénario surprise, la pochette surprise, c'est Xabi Alonso qui décide de ne pas avoir la possession et d'avoir une équipe solidaire sur le terrain. C'est un truc que personne n'a prévu. Mardi dernier, on a fait un podcast avec Martin Terrier, donc l'attaquant de Leverkusen en transfuge de Rennes.
After Allemagne, c'est toujours dispo.
Ouais. Et je souhaiterais le remercier parce qu'il s'est caché. Il ne s'est pas caché sur toutes les questions qu'on lui a posées. Il a répondu vraiment à tout ce qui se passait, etc. Ce match, il y a trois parties. C'est une pièce de théâtre en trois actes. Les 10 premières minutes, les deux équipes cherchent à avoir le ballon, la possession. De la 10e à la 60e, c'est le Bayern Munich qui commence à écraser la machine. On en parlait le lundi dernier, la machine qui commence à se mettre en place. Et les Leverkusen, ce qu'on a pas vu déjà la saison dernière, ni en ce début d'exercice, puisqu'il se prenait 9 buts en 4 journées, se met à défendre comme des clébards sur tous les ballons, etc. Y compris Wirtz qui revient à 20 mètres, 30 mètres de ses buts, etc. Et à partir de l'heure de jeu, on voit toujours le Bayern avec une possession, mais qui finalement a compris qu'elle n'arrivait pas à contourner le bloc de Leverkusen. Et on s'est dit que même à un moment, Leverkusen, à la 88e minute, allait pouvoir faire le hold-up parfait. Évidemment, il y a l'action de Gnabry en début de seconde période avec la barre transversale et le poteau. Mais si tu veux, il y a tellement de questions qui se posent après cette rencontre. Pourquoi ce scénario de Xabi Alonso? Et Xabi Alonso, en conférence de presse, a fait il noyait un peu le poisson. Il disait, ça a été dur, on a décidé pendant la rencontre de changer, de se mettre à défendre. Pendant ce temps-là, le capitaine Xhaka disait, mais de toute façon, ces dernières journées, on n'était pas là, on pouvait pas continuer à se prendre 2-3 buts par match, il fallait absolument qu'on soit solidaire, on a beaucoup parlé entre nous, etc. Donc, ça veut dire qu'ils l'ont travaillé à l'entraînement, et que c'est pas fait comme ça. Xabi Alonso, il est en train de nous faire comprendre que c'est pendant la rencontre qu'ils ont décidé de s'adapter du jour au lendemain comme ça. Ce qui fait une entreprise caméléon par rapport à au Leverkusen qu'on avait vu l'année dernière. Il y a plein de questions, parce que Compagnie est dithyrambique sur ce qu'a fait Leverkusen, en tout cas c'est un top spiel, c'est ça ce qu'on veut voir, et lui c'est ce que c'est que les matchs à haut niveau en première ligue, et t'as Xabi Alonso qui dit mais c'est dingue la volonté du Bayern Munich de l'autre côté, ce qu'ils ont voulu nous mettre, etc. Et tout ça, si tu veux, ça porte une question où tu te dis, mais est-ce que le Bayern finalement peut tenir 90 minutes, ou est-ce qu'ils étaient en sur-régime lors de la première mi-temps? Réponse au passage contre Aston Villa en Ligue des Champions, parce que là tout le monde aussi est dithyrambique sur le Belge, mais qu'est-ce qui se passe si le Bayern contre Aston Villa, et en plus c'est un match historique, Julien le sait très bien, et pas forcément pour le Bayern Munich. Et puis pareil pour Leverkusen, cette prestation, cette adaptation qu'on ne veut pas avoir à toutes les rencontres, bien entendu. Leverkusen, c'est pas ça, c'est le football flamboyant avec ses ailiers et tout, et qui fait tout, c'est extraordinaire. Même Xabi Alonso, à partir de du dernier quart d'heure, se met à sortir Boniface pour mettre Tela, donc Adli se retrouve en faux neuf, et donc c'est de la caricature de quelqu'un qui veut gagner avec un contre. On est fou, et finalement il y a un à la fin, etc. Éloge du football allemand, de la presse allemande sur cette rencontre, parce que déjà le championnat n'est pas plié. Moi j'ai quand même un peu peur avant la rencontre qu'avec la forme du Bayern, il y a 3-0 au bout d'une demi-heure, et en fait le scénario qui se prévoyait c'était ça. Mais cette solidarité de Leverkusen qui ne nous a pas habitués à ça depuis le début de saison, sérieux, c'est une sacrée corde à l'arc de Xabi Alonso.
Mais j'ai quand même, tu vois, la plupart des messages là, par exemple dans le chat, de gens qui ont vu sur la chaîne YouTube, qui ont vu le match, c'est le Bayern les a piétinés, c'était Bayern rétaffé.
Mais c'est faux, voilà. C'est pas vrai. C'est pas vrai, parce qu'à l'heure de jeu, le Bayern n'y arrive plus, en fait. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a plein
c'est
de questions.
Pour moi, j'ai regardé le match et je regarde souvent Rétafé, ça joue pas comme ça. Hein. Pardonne-moi.
Dernière, les gars, la saison dernière, quand on a vu le Manchester City Arsenal, le 0-0, et Arsenal avait fait la même chose à Manchester City, on avait été un petit peu critique, mais c'est normal. Mais je pense qu'on arrive aussi à comprendre que parfois, tu fais aussi ce qu'il y a de mieux pour ton équipe, si t'es Xabi Alonso ou si t'es Mikel Arteta. Et ben, parfois, ça veut dire aussi être plus défensif, parce que tu sais aussi que si tu joues ton football habituel, tu peux prendre une volée et tu peux perdre. Et perdre là, ça aurait vraiment été négatif pour Leverkusen, comme ça l'aurait été pour Arsenal à l'époque à City. Ils sont allés, ils ont fait le travail défensivement. Ça ne veut pas dire qu'ils ont changé leur philosophie, qu'ils se sont trahis ou quoi que ce soit. Ça veut dire que pour ce match-là, pour ces 90 ou 95 minutes-là, ils avaient choisi une autre facette de leur jeu, comme vient de le dire Polo. T'as quelque chose d'autre.
C'est-à-dire que c'est bon, en fait, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais en fait, si Gnabry marque en début de deuxième période, parce que là, les gens qui parlent, c'est ceux qui ont regardé les statistiques, 18 tirs à 3, etc., blablabla. Mais c'est pas ça. Et d'ailleurs, même avec la possession du Bayern, les Leverkusen, qui nous avaient plutôt habitués à 90% de passes réussies, est à 75%, ce qui est énorme quand même, quand tu défends de la façon dont ils te défendent là. Et la seule occasion du Bayern de le faire à Leverkusen en première mi-temps, c'est le but d'Andri. Et Pavlovic réussit quelques minutes après à corriger son erreur par un superbe but. Petite polémique en Allemagne sur la main de Andrich, de Radecki, parce que c'est pas clair quand même. Mais si tu veux, cette rencontre, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on s'est dit, ah ouais, il y a un truc à faire quand même. Ce qui est génial, c'est qu'on va pas avoir les 18 points d'écart de l'année dernière, où de Leverkusen a écrasé le Bayern, et parce que le Bayern est meilleur pour le moment sur ce qu'on voit, en tout cas à l'instant T, et Leverkusen est peut-être un peu moins fort que l'année dernière. Et donc on se dit, ah, il va y avoir quelque chose qui va se passer dans cette rencontre là mais moi j'attends aussi, parce qu'il faut voir ça sous forme de cycle, le match de Ligue des Champions de Leverkusen contre Milan. Parce demain. Que moi, je sais, les mecs, ils ont fini cramés au bout de 90 minutes, hein, cette rencontre-là. Ouais. En plus, on est en début de saison. Idem, le Bayern à Aston Villa. Moi, je veux voir ce que ça veut donner. Parce que tout le monde est dithyrambique, encore une fois, sur les deux coachs respectifs. Mais qu'est-ce qui se passe si Leverkusen perd contre Milan et si le Bayern se prend une raclée contre Aston Villa?
Le Bayern qui aura d'ailleurs quand même 24 heures de plus pour digérer ce top spiel. Ouais. Puisque Leverkusen face à l'AC Milan demain, 21h, ce sera après-demain pour le Bayern Munich. Et au classement, pour illustrer ce que tu dis, Polo, le Bayern, après 5 journées, leader avec 13 points. Le Bayern Leverkusen est 4e avec 10 points. hein. Et on parlera tout à l'heure, Polo, de Francfort et Leipzig qui sont intercalés parce que les concurrents sont là. Ce sera pas a priori une Bundesliga 2 cette saison. Et on en parlera tout à l'heure. 20h41, les drôles de dames sur RMC. Place tout de suite à la minute de Julien Laurence.
Est-ce que vous êtes déjà tombé amoureux? C'est ça, Have You Ever Fallen In Love? C'est la chanson de Buzzcocks, bien sûr, le groupe anglais, que vous avez tous reconnu, bien sûr, hein, surtout Polo, surtout les anciens, Polo et Fado. Les plus jeunes, peut-être un petit peu moins. Mais voilà, est-ce que vous êtes déjà tombé amoureux? C'était pour parler de Brian Clough, qui est mort maintenant il y a 20 ans. On l'a célébré ce week-end à Nottingham Forest. Même s'ils ont perdu Forest ce week-end-là, comme chaque année, mais encore plus pour le 20e anniversaire. Donc du décès du génie Brian Clough, tant aimé à Nottingham, mais aussi dans toute l'Angleterre, pour ce qu'il a accompli sur le terrain déjà, bien sûr, avec Forest, les titres de champion d'Europe, les titres de champion d'Angleterre, la façon dont il a aussi révolutionné le football anglais, le management à l'anglaise, on va dire, toutes les fameuses punchlines, hein, la plus célèbre, qui est celle qui est inscrite d'ailleurs sur la tribune qui porte son nom maintenant, au City Ground, qui dit j'étais peut-être pas le meilleur entraîneur du monde, mais j'étais dans le top 1. Donc, en gros, voilà, c'était Brian Clough pour vous. Et donc voilà, c'était un bel hommage encore une fois ce week-end de la part de Nottingham Forest.
Merci beaucoup Julien. La question, est-ce que vous êtes déjà tombé amoureux? Je te cache pas que j'ai vu Fredo faire oui de la tête.
Oh, beaucoup de fois.
Beaucoup trop peut-être.
On n'est jamais trop amoureux. C'était fréquent mais court. Tu sais, il y a des fois tu tombes une fois amoureux, c'est dur longtemps. Moi, c'est des petites, beaucoup de passion mais rapide.
Tu nous parlais de tes relations, on est d'accord.
Oui, d'amour. Enfin, je tombe amoureux, puis après je me désamourache aussi vite que je m'amourache.
J'ai eu peur pendant un instant. Dans un instant,
C'est plus que ça a été non plus.
Vlahovic, bien évidemment. Le temps passe, mon Fredo. Le doute s'installe à Turin, malgré Thiago Motta. C'est pas encore ça pour Vlahovic. Et puis la minute de Polo à suivre. C'est Génération After spécial Drôle de Dame. Comme tous les lundis, on est tous ensemble en direct jusqu'à 22h. Et si vous voulez leur poser vos questions, hein, Drôle de Dame, le 32-16. Et vous êtes en direct face à elle à 21h45. À tout de suite sur RMC.
RMC, 20h-22h, Génération After,
Thibaut Giangrande.
Avec les drôles de dames, comme tous les lundis, pour lancer cette magnifique semaine européenne qui nous attend sur RMC, Julien Laurence, Polo Breitner, Fred Hermel, Johan Crochet sont là, d'ailleurs dans un petit quart d'heure, Arsenal au programme. Est-ce que Arsenal est prenable pour le Paris Saint-Germain? En plein épisode Dembélé, on en parle à partir de 21h. La minute de Polo à suivre, Vlahovic, le doute s'installe à Turin, c'est dans un instant, mais d'abord le direct. C'est la Ligue 2, la 7e journée qui vient de débuter et qui a déjà été interrompue. Guingamp-Caen, salut Xavier Grimaud.
Salut Thibaut, salut à tous, salut. Bienvenue à Roudourou, 3 minutes de jeu 0-0 et on a pris un petit peu de retard parce que le Cop Rouge, les supporters guingampais, ont sorti une banderole, Bein et l'FP, vous nous faites chier, et pour imager leurs propos, ils ont balancé plusieurs centaines de rouleaux de papier toilette sur la pelouse pour pousser la protestation jusqu'au bout. Donc l'arbitre a arrêté le jeu parce qu'il y en avait notamment sur le but et ça rendait le match impossible de se tenir. Donc voilà, la protestation continue face aux diffuseurs. Pour le terrain, c'est un duel de milieu de tableau, mais il y a un joli strapontin à aller chercher pour les Guingampais. En cas de victoire, ils pourraient revenir à hauteur de la deuxième place de Ligue 2 s'ils s'imposaient face à Caen, qui reste sur deux victoires de suite, le Caen de Kylian Mbappé évidemment. Et est-ce que vous avez déjà eu les drôles de dames à un match de Guingamp avec le vrai Sylvain Ripoll pour... Là on a le vrai.
C'est vrai.
Et ça marche pas trop mal pour l'instant pour son retour sur le banc.
C'est pas Sylvain Ripoll, c'est le Gareth Southgate français.
C'est vrai, le Gareth Southgate français, pardon. 0-0, en tout cas, on atteint la 5e ici, Rodo.
À tout à l'heure, ça vient de partir également en Italie. 0-0 entre Parme et Cagliari. Vous ne verrez pas ce match, donc restez à la radio sur RMC.
Et ça ne bougera pas d'ici 10 jours, on m'a dit la Ligue tout à l'heure.
Encore au moins 10 jours. Ok. L'Italie, justement, Johan, la Juve s'impose 3-0 face au Genoa ce week-end, doublé de Vlahovic, et pourtant, tu doutes
de Dusan. C'est pas tant moi que les supporters de la Juve, parce que, effectivement, contre le Genoa, ça s'est bien passé, il a marqué un doublé. C'est le deuxième match de cette saison où il marque au moins un but. Il avait marqué qu'une seule fois avant le match contre le Genoa en 5 journées de championnat et un match de Coupe d'Europe. C'était contre l'Hellas Vérone à la 2e journée. Ce qu'on voit globalement, je vais juste m'écarter dans le sens de Vlahovic pour parler de la Juve, c'est que la première mi-temps était très 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 compliquée, voire très 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 ennuyeuse. Bah bon, choisissez le
toi qui nous vendais du rêve, la planète gris, machin.
Mais effectivement, c'était très très dur la première mi-temps. Zéro occasion, très peu de mouvement, de dynamisme, de volonté d'aller vers l'avant. Ça ronronnait clairement, c'était très stérile pour le coup. Et la deuxième mi-temps a été bien meilleure. Ce qu'on voit quand même, c'est que la Juve, quand elle affronte un bloc bas, pour le moment, c'était le cas donc contre le Genoa, contre Empoli, contre le Napoli, qui était quand même assez bas avec Antonio Conte, c'est en difficulté. Par contre, quand on joue le PSV en Ligue des Champions et que le PSV ouvre le jeu à la néerlandaise, ça devient un petit peu plus facile de trouver des espaces et donc de se créer des opportunités. Et dans tout ça, ce qui est certain, c'est que Vlahovic, autant ces dernières années, depuis qu'il est arrivé, on avait le facteur Allegri, on va l'appeler comme ça, où on disait, bah, de toute façon, Vlahovic, on le voyait, hein, il joue à 60 mètres du but adverse. Dès qu'il recevait le ballon, il fallait faire 60 mètres et puis après essayer de se créer une occasion. C'était très compliqué. Là, même si le début de Mota n'est pas idyllique en termes de football, ça viendra. Moi, je me rappelle les débuts de Mota à Spezia, je me rappelle les débuts de Mota à Bologne, où c'était loin d'être le Bologne qu'on a vu ensuite sur sa deuxième saison complète, où il faisait vraiment un football très attractif, attrayant et surtout... il pourvoyait en ballon beaucoup les attaquants, et ça, c'est ce que demande aussi Vlahovic. Il y a quelques doutes parce que il a eu évidemment une pubalgie depuis qu'il a la Juve, qu'il l'a beaucoup gêné. Il a joué blessé plusieurs fois, c'était des semaines et des mois. C'était très compliqué pour lui d'enchaîner les matchs, et donc ça donnait un côté un peu irrégulier à ses prestations qui n'étaient pas toujours franchement reluisantes. Si on prend le bilan statistique de Vlahovic à la Fiorentina, c'est la saison où il explose, c'est 21 buts. Ensuite, c'est 17 buts sur la demi-saison avant de partir à la Juve. La deuxième partie de saison à la Juve, c'est 7 buts. Ensuite, 10 buts la saison d'après et 16 buts la saison dernière. On est loin d'un mec, enfin, en tout cas des attentes que tu as autour d'un joueur qui a été payé un peu plus de 80 millions d'euros. Voilà, on ne prend pas pour marquer entre 10 et 16 buts par an en championnat. On attend plus parce qu'on estime aussi qu'il a les qualités pour marquer plus. Ça serait un attaquant moyen, on dirait bah, peut-être que c'est son plafond vert. Là, on est persuadé qu'avec Vlahovic, c'est pas le cas. Et en plus, c'est
et on doute quand même de sa capacité à briller dans cette Juve de Thiago Motta.
Pour le moment, on reste un peu attaché à ce qu'on a vu à Florence. Et pour ceux qui aiment bien analyser un peu ça, le potentiel qu'on lui voit de développement et la palette complète qu'il a, joueur très physique, gros pied gauche, qui est aussi capable de marquer sur coup de pied arrêté, qui est capable de marquer sur des frappes de loin, marquer de la tête, dans la surface, qui se déplace plutôt bien, qui est capable de prendre la profondeur. Un joueur qui est pas maladroit, ballon au pied, vraiment. Et pour jouer avec la Fiorentina d'Italiano, il fallait être plutôt adroit, ballon au pied. Et si un mec comme Arteta s'intéressait à lui... Bah, c'est quand même qu'il avait des capacités aussi à jouer avec les autres, parce que c'est ce que demande Arteta avec ses attaquants axiaux. Donc on est un peu attaché à ça en se disant ça va arriver. Les moins patients d'entre nous vont dire bah ouais, ça va peut-être arriver, mais il faudrait que ça arrive la coco, parce que c'est plus de 80 millions d'euros.
La Juve qui affrontera le RB Leipzig mercredi, rapidement Polo, faut s'attendre à quel type de match là pour la Juve de Vlahovic?
Ah ben, si tu vois le match de ce week-end, le RBL a fait une belle prestation, mais c'était pas l'équipe la plus terrible en face. Donc c'est impressionnant. Mais moi, j'ai un vrai problème avec Leipzig cette saison, c'est que je pense qu'ils sont moins forts parce qu'ils n'ont pas, ils ont perdu Olmo, ils l'ont pas vraiment remplacé, ou tout du moins les recrutements qu'ils ont fait, c'est des jeunes et très très jeunes. Je pense que contre des équipes, contre la Juve, au bout d'un moment, ça risque d'être un peu limité. Maintenant, ils peuvent mettre le feu, on le sait. Il suffit que la défense soit pas là. Sesko a encore mis un doublé ce week-end, etc. Bon, moi, j'attends ce match avec impatience, mais je répète que ce qui m'intéresse, c'est le nouveau format, c'est la liste de courses, et la liste de courses de Leipzig, elle est terrible.
Juste pour revenir sur Vlahovic, quand même, avant ce match-là contre le Genoa, il avait été sorti à la mi-temps quand même contre le Napoli, il avait touché 6 ballons. 6 ballons en une mi-temps, c'est très faible. Et en plus, c'est un choix qui était très fort parce que Vlahovic, il n'y a pas de remplaçant à l'heure actuelle à Vlahovic. On pose numéro 9. Milik est toujours blessé, il va revenir normalement lors de la prochaine trêve. Et donc, Mota avait quand même choisi de jouer contre le Napoli, c'était le choc, l'un des chocs de la journée, puisqu'il y avait le derby de Milan en même temps, avec Timothy Weah en faux numéro 9. Donc c'était quand même un choix très impactant de Mota. Dans un instant, quand même néanmoins largement confiance en Vlahovic.
La minute de Polo, mais d'abord, on a déjà eu un but en Ligue 2, Xavier Grimaud.
Exactement, et un but pour l'en avant Guingamp. La sixième corner, il est magnifiquement tiré. Un pied gauche par Ryan Grieb et la tête, elle est belle aussi de Jacques Stiway. Tête décroisée qui ne laisse aucune chance à Mandrea qui aurait peut-être pu sortir. Le gardien canet 1-0 donc pour le Guingamp de Sylvain Ripoll. La dixième, 1-0 pour Guingamp.
C'est le Brésil, l'équipe de Sylvain Ripoll. À tout à l'heure.
Assez offensif. C'est très offensif.
La minute de Polo tout de suite. Weißt du noch, wie's war? Kinderzeit, wunderbar. Die Welt ist bunt und schön. Bis du irgendwann begreifst, dass nicht jeder Abschied heißt. Es gibt auch ein Wiedersehen. J'aime bien la mélodie.
Wolf Heim.
Les paroles, pas
Wolf
plus, j'aime
Heim.
La mélodie.
Ouais. Kein zurück, pas de retour possible. Ça me fait penser à une phrase, célèbre phrase de Margaret Thatcher, « There is no alternative », il n'y a pas d'alternative. Il y a souvent en Allemagne ces petits libéraux qui ont presse ouverte pour leurs idées. Et cette fois-ci, c'était le directeur général de la galaxie Red Bull, Oliver Mitzlaff, qui nous a en gros, dans cette interview, expliqué ce que sera le monde de demain, le monde du football. Il est évidemment un grand partisan du mondial des clubs. À chaque fois qu'on lui parle des blessures de Rodri ou des, il dit oui, mais ça, c'est des choses à régler au fur et à mesure. Et en fait, on se rend compte que dans son discours, il n'y a que l'argent qui est intéressant pour ces gens-là, pour ces multinationales, évidemment, parce que Red Bull est une multinationale. Et en fait, je trouve toujours intéressant que ces gens-là, en tout cas en Allemagne, qui sont minoritaires par rapport à leurs idées, arrivent toujours dans des médias qui sont un peu leur même ligne éditoriale, qui arrivent en fait à faire comme ça une forme de catalogue de ce que va être le foot de demain. Donc c'est Oliver Mitzlaff, évidemment le DG de Red Bull, le grand patron aujourd'hui, l'un des trois plus importants de la galaxie sportive de Red Bull, qui nous a fait un petit peu son catalogue de ce que sera le football de demain. Et avec, évidemment, c'est pour ça que j'ai choisi cette chanson avec ce titre « Kein zurück », pas de retour possible. Donc voilà. Donc c'était un petit coup de gueule de ce genre de personnes qui s'expriment alors qu'ils sont ultra minoritaires.
Le coup de gueule est passé, d'ailleurs t'en as parlé ce soir. Donc du coup, bam, l'idée va être répandue au plus grand nombre par ta faute quelque part, Polo. La minute de Fredo à suivre. Mais à 21h, c'est Arsenal au programme. Est-ce que les Gunners sont prenables pour le Paris Saint-Germain demain soir? On parlera également du souci Dembélé à Paris. C'est dans un instant sur RMC Génération After. Drôle de dame en direct jusqu'à 22h.
RMC. Vas-y, très vite.
Ouais, juste pour conclure, il y a une phrase célèbre dans le foot qui est on joue comme on s'entraîne.
Évidemment.
Non, mais c'est important, Nico, parce que bien sûr, je me la raconte un peu sur le hug avec le stress. Mais
je vais essayer d'être honnête, ce qui est déjà pas mal. L'objectivité, je sais pas ce que c'est.
Alors,
par contre, honnêteté, j'essaie de l'être.
Non, mais j'ai peut-être dansé sur Coldplay, mais je devais pas être à jeun.
20h22h, Génération After.
Il est 21h03, merci d'être là en ce lundi soir qui annonce une semaine exceptionnelle sur RMC, vos drôles de dames, jusqu'à 22h. D'ailleurs, Polo qui parlait musique, dans le chat, pour l'instant, c'est un carton. Hein. C'est Polo qui domine avec son choix musical, la minute de Polo.
Ah, moi j'ai du lourd.
Ouais, bon, on va voir, la minute de Fred Hermel à suivre dans quelques minutes. Il y aura celle de Johan Crochet également un peu plus tard.
Tu fais une passe? Tu fais une petite passe là? Tu passes le ballon?
Je te fais une Modric, qu'est-ce qu'il y a?
Une Modric? Ah, j'ai bien reçu.
Pourquoi?
Je peux recommander mon podcast littéraire.
Ouais, vas-y, évidemment.
Ah ouais, nouvel épisode avec un grand journaliste sportif, grand supporter de la Saint-Etienne, grand spécialiste de la Saint-Etienne, Bernard Lyons, qui a écrit un roman et qui était l'invité de mon podcast Délivre RMC, à retrouver sur rmc.fr et sur l'appli RMC.
Allez, c'est un 1-2, je profite, il y a les podcasts Drôles de Dames, hein. Toutes les semaines, c'est votre
aussi
nouveauté de la rentrée podcast.
On parle de Rafinha dans l'Espagne.
Voilà, After Espagne, il est tout frais, After Italie également.
J'ai reçu un appel d'Allemagne aujourd'hui. Ah. Pour dire que les podcasts Allemagne, que le podcast Allemagne était exceptionnel.
Un appel de qui?
Les podcasts. D'un Français qui est à Munich.
Ben bravo. Bravo Polo. Bravo à vous. Voilà, c'est dispo. C'est
si on arrive à faire mieux que ce qui se passe chez les locaux, c'est quand même assez exceptionnel.
Et voilà, bah, c'est à retrouver dans toutes les chaînes de l'After. Hein. Vous tapez After Allemagne, par exemple, After Angleterre. C'est toutes les semaines.
Après, si
c'est
en longueur, vos drôles de dames. Si tu vas sur rmc.fr, tu cliques sur podcast, t'as tous les podcasts aussi de la maison. C'est hyper partout. Facile à retrouver.
Vous pouvez vous abonner comme ça. Vous
il faut surtout
commenter,
s'abonner.
Commenter, noter, n'hésitez pas. Et si vous voulez parler aux drôles de dames, vous faites le 32-16. Vous nous appelez et à 21h45, vous serez face à Polo.
Polo face à Julien, face à Fredo et face à Johan. Dans un instant, Arsenal au programme, mais d'abord un point Ligue 2, la 7e journée, Guingamp-Caen, Xavier Grimaud.
Et on atteint la 20e au Roudourou, toujours 1-0 pour les Guingampais. Le buteur, c'est Jacques Siway de la tête. Il y a eu une belle occasion encore pour Siway avec un joli renversement de jeu, le centre cette fois venu de la gauche, et Mandrea qui s'est couché pour détourner le ballon. Une occasion pour les Canets, elle était belle avec Tidiane Gomis, le jeune attaquant de 19 ans, crochet intérieur, crochet extérieur, frappe lourde, et Enzo Basilio, le Guingampais, qui détourne. C'est un bon petit match pour l'instant, c'est plutôt agréable à regarder entre Guingamp et Caen. 1-0 pour les Bretons.
À tout à l'heure. Julien Laurence en Angleterre. Arsenal face au Paris Saint-Germain, c'est demain à 21h, deuxième journée de Ligue des Champions. On a laissé les Gunners aller faire match nul, presque battre City le week-end d'avant. Ce week-end, victoire poussive contre Leicester. Est-ce qu'Arsenal est prenable ou pas pour le Paris Saint-Germain?
Ah, poussive, non. Poussive, c'est toi qui pousse un peu loin, là, quand même. Ils se sont fait un petit peu peur. Parce
ça a été long à se dessiner, quoi.
Non, ils menaient 2-0. Ils avaient archi-dominé la première période. Ils se sont un petit peu endormis au retour de la pause. Ils ont pris un but très vite sur une tête déviée. Et puis après, ils ont surtout pris un deuxième but magnifique, vraiment, de l'arrière-droite de Leicester, James Justin.
Il y avait 2-2 à la 93e, c'est ça que je veux dire.
Non. Après, ils ont gagné lors du temps additionnel, mais ouais. Si tu veux, si tu regardes les stats, ils ont un expected goal de 5, ils ont 36 tirs, 17 corners. Enfin, il y a pas photo, si tu veux, sur le fait qu'ils méritaient de gagner, mais oui, ils se sont fait un petit peu peur. Après, c'était pas poussif dans le jeu ou quoi que ce soit. Ils sont tombés sur un gardien de Leicester, Hermansen, extraordinaire, qui a fait le plus d'arrêts sur 45 minutes dans l'histoire de la Premier League en seconde période. Donc voilà, c'était, mais si tu veux, c'était pas poussif, même s'ils se sont fait peur. Après, est-ce qu'ils sont prenables? Oui, enfin, je pense que tout le monde est prenable à ce niveau-là maintenant, mais ils sont quand même dans une très bonne période, ils sont toujours invaincus cette saison. Ce qui me fait le plus peur, moi, en tant que, c'est un peu mon derby finalement, Arsenal PSG, c'est mes deux équipes, c'est que Arsenal est la meilleure équipe en Europe sur les coups de pied arrêtés. Ils ont marqué 24 buts depuis le début de la saison dernière sur coups de pied arrêtés, ce qui est de très très loin le mieux en Europe. Et au contraire, on l'a vu avec le PSG, que les coups de pied défensifs, coups de pied arrêtés défensifs, c'est très compliqué pour les Parisiens. Donc je pense que ce sera une des clés du match, c'est sûr. Sans Ousmane Dembélé, ce sera encore plus fort, encore plus compliqué pour les Parisiens aussi.
Mais justement, toi, donc, qui connais bien les deux et qui, pour le coup, va être objectif, parce que c'est deux clubs que t'aimes bien, comment tu vois ce match? Parce que vu de France, on a quand même l'impression, et on parlera de Dembélé dans un instant, mais que ça s'annonce très très compliqué pour Paris quand même, hein.
Oui, je pense que ça va être compliqué. Après, ce sera là dans quelle mesure ils vont être capables de résister au pressing d'Arsenal, qui est surtout à domicile très efficace premièrement et très intense deuxièmement. Et dans ces circuits-là de sortie de balle, par exemple, et de circulation, le fait de pas avoir Ousmane Dembélé sur la droite avec Hakimi et avec Zaïre Emery, c'est un gros problème. Parce que si, je sais pas, avec Colomwani, Lee, je sais pas qui va le remplacer sur la droite, mais ce sera pas la même chose du tout. Et l'un des circuits préférentiels du PSG pour sortir du pressing adverse, peu importe de qui vient le pressing, c'est souvent sur ce côté droit-là. Et là, ce sera pas le cas. Donc je pense que Arsenal va être encore plus capable de mettre le PSG sous pression et de récupérer le ballon très haut et très souvent. Et je pense que ça va créer des gros problèmes au PSG. Donc oui, je pense qu'Arsenal est favori et logiquement favori. Pas forcément de beaucoup non plus, parce que le PSG a aussi, notamment au milieu de terrain, des qualités pour gêner Arsenal. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui font que Arsenal est le favori dans ce match-là.
Et peut-être encore un peu plus depuis l'absence confirmée aujourd'hui d'Ousmane Dembélé, écarté. Il l'a confirmé Luis Enrique en conférence de presse ce soir. Il dit, si quelqu'un ne respecte pas les obligations à faire l'équipe, qu'il n'est pas prêt. Je considère que c'est une semaine importante avec un match important et je veux que mes joueurs soient dans les meilleures dispositions possibles. Par conséquent, je l'ai mis à l'écart et je veux le meilleur pour l'équipe. Qu'est-ce qu'on dit à Londres, Julien, de cette mise à l'écart?
On est très content. Déjà, j'étais avec Ian Wright cet après-midi, on a fait une émission ensemble pour la Premier League. Et quand il est arrivé, il m'a dit, c'est vrai que Ousmane Dembélé sera pas là demain, lui qui va aussi au match avec toute la famille Wright. J'ai dit oui, c'est vrai, il était super content, parce que même si les Anglais, on le répète encore une fois, c'est pas contre le PSG, mais les Anglais ne regardent pas le football européen, personne, nulle part, aucun club, aucun championnat.
Bah, c'est les Anglais, quoi.
Ouais, c'est les Anglais,
ouais, c'est comme ça.
Ils savaient quand même que Dembélé faisait un très bon début de saison, on en parle quand même assez dans les émissions, notamment que dans lesquelles je participe outre-Manche, mais oui, donc ils savent très bien que c'était leur meilleur joueur cette saison et que sans lui, bah, c'est pas du tout la même équipe.
Fredo, tu vas parler de Luis Enrique, mais Luis Enrique, il a raison.
Enfin, c'est quelqu'un pour qui l'autorité est très importante au sein d'un club. Ça lui a fallu lui coûter sa place avec Messi, hein, ça. Quand il avait montré un peu d'autorité.
Il est toujours embrouillé avec tout le monde, hein, partout.
Oui, mais c'est-à-dire qu'il avait raison. C'est-à-dire que c'était un match en janvier 95 où Messi, qui avait été rentré trop tard, plus tard que
2015,
prévu.
Le temps passe, Fredo.
Janvier 2015, Il était revenu de vacances de Noël. Comment? J'ai 95. J'en espère en 95. Bon, ça fait. En 2015,
il avait des cheveux encore.
Il avait osé mettre Messi sur le banc, et le président était venu voir derrière. Le Barça avait perdu 1-0 à la Real Sociedad. Le président dit, tu veux la tête de Luis Enrique? Demande à Messi. Messi, non, mais je veux simplement qu'il arrête de m'emmerder. Et donc, il a été obligé de se calmer. On lui a fait comprendre que le patron, c'était Messi.
Mais
il avait
Là, dans cette conférence de presse aujourd'hui, Luis Enrique a redit un peu plus tard dans une réponse qu'il faisait ce qu'il voulait, il avait les mains totalement libres. Mais si demain, justement, c'était plus le cas, il serait plus à Paris.
Mais ça, c'est excellent. Mais ça, c'est ce qu'il faut à Paris. Sincèrement. Après, Ousmane Dembélé, moi, je l'aime bien, c'est un bon gars. Mais moi, je l'ai vu sa première année au Barça. Hein. Bah, il arrivait tout le temps en retard. Vous vous souvenez?
Ouais, mais c'est loin, ça, quand même.
Bah, oui, mais enfin.
Depuis, notamment.
Comme on dit l'espagnol, que tout bourre et tout
bourre. Il est beaucoup moins blessé. Il prend plus de problèmes.
De discipline.
Non, ouais, ce serait plutôt le match contre Rennes, le dernier match.
On sait que c'est quelqu'un difficile à gérer.
Luis Enrique l'a fait sortir, il n'a pas apprécié notamment une action précise où il aurait dû donner le ballon. Ben il y a eu une discussion entre les deux
aussi, voilà. Etc. Enfin, moi, je parle de ce que j'ai connu moi bien, c'est-à-dire à Barcelone, il a posé de nombreux problèmes au début. Dans sa alimentation, dans son repos, il arrivait tout le temps en retard à l'entraînement.
Enfin, oui, mais là c'est plus le cas, ça c'est en tout cas.
Non.
Bah, et même d'ailleurs sur sa dernière année au Barça.
Oui, c'était mieux. Ouais. Mais comme on dit en français, chassé naturel,
il revient au galop.
Voilà.
Ce sera demain à 21h, hein, ce Arsenal PSG. Ce sera une soirée exceptionnelle, comme toutes les soirées de Coupe d'Europe, puisque il y aura bien évidemment Rotten sans flamme, l'after live, l'after jusqu'à minuit et demi, la libre antenne. Donc, soirée européenne jusqu'à 1h30 du matin. Il est 21h11, petite pause. Et on se retrouve avec les drôles de dames. On est toujours en direct sur YouTube, la chaîne de l'after, où vous plébiscitez, je vois, chers afteriens, les podcasts de vos drôles de dames. Et ben, ça fait plaisir. Merci d'être là. Merci d'aller cliquer. N'hésitez pas. Dans un instant, la minute de Fred Hermel et non,
il était en retard. Mais c'est exactement ce qu'on vient de dire. Non, parce qu'on est repris sur le chat. Il était en retard les premières années. Là, il est à Paris. J'ai dit au Barça la première année, il était en retard et après ça s'est amélioré.
C'est moi qui l'ai dit ça.
Non, mais c'est la vérité. Je veux dire, un moment, mais voilà. Donc, il a pu rechuter dans son manque de discipline. Tu crois que sincèrement, excuse-moi, je suis désolé, mais tu penses sincèrement que Luis Enrique se priverait d'un tel joueur pour un match aussi important s'il ne considérait pas qu'un manque de discipline pouvait affecter le groupe.
Bah, tu connais mieux que moi,
il a raison.
Bah, il est totalement capable de faire ce genre de choses, même pour quelque chose de minime. Voilà.
Si Fred était au niveau des autres, il me restait encore mieux. Bah ouais, je fais ce que je peux, je débute. Hein.
Non, mais commence pas.
Je fais ce que je peux, je débute. Tu sais, ça fait que 25 ans.
N'hésitez pas à continuer à débattre calmement, dans le respect.
Il y en a qui ont essayé.
Et à nous appeler au 32-16. Dans une demi-heure, les drôles de dames.
Ils ont eu des problèmes.
Ils sont face à vous, justement. Julien Laurence, Paulo Breitner, Fred Hermel, Johan Crochet, Chevalier Las Palès.
Magnifique.
On apprécie.
Dans un avion, non. Il se l'atterrit, il repart aussitôt.
Ah oui. J'ai l'impression que Polo
aussi. Comme vous voulez.
Non, c'est vous qui voyez, Polo.
C'est vous qui voyez, pardon.
Si t'as la ref, faut bien la faire, par contre. Ouais. Allez, dans un instant, la minute de Fredo et la Lazio au programme. On parlera également de la Bundesliga, tiens, justement, avec Polo et ce championnat qui se dessine avec cette année beaucoup de concurrence. À tout de suite sur RMC.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Thibaut Giangrande.
Il est 21h16, dans une demi-heure, les drôles de dames sont à vous. Comme chaque lundi, à 21h45, vous nous appelez au 32-16 pour poser vos questions. À Julien Laurence, Paulo Breitner, Fred Hermel, Johan Crochet. On est toujours en direct sur YouTube, sur Direct Studio, notamment. Riton écrit salut Polo en parlant de Coldplay. Que penses-tu du groupe Knorkator? Tu connais Polo? Knorkator?
Non, ça me dit rien.
Bon, voilà. Il y a Azeu qui dit Thibaut, je suis dégoûté, tu fais la promotion des différents podcasts, mais tu oublies l'un des meilleurs, l'œil du Tib. Merci Azeu.
Alors, il vient de l'inventer, il n'y a absolument pas ça dans le chat.
Tiens, je te laisse vérifier sur le Direct Studio.
L'œil du Tib, c'est tous les week-ends matinales.
Ouais, c'est la nouvelle matinale.
Mais je sais.
Anaïs Matin,
mais
je sais, je t'ai écouté. Exceptionnel, et n'hésitez pas
à écouter. Tu as parlé de rien ce week-end. C'est Anaïs qui a envoyé le message.
Attends, ce week-end, tu as parlé de foot.
Alors, je le fais, c'est vraiment le principe, c'est que je parle que de foot.
Ah, ben, c'est ça. Mais, ben, c'est non, mais non, mais t'as parlé d'un sujet que j'aimais bien, et j'ai oublié, c'était quoi?
Zidane.
Zidane. Et voilà. Voilà.
C'est des petites histoires.
Exactement, voilà. N'hésitez avec Enzo Zidane, 29 ans, qui a arrêté sa carrière.
Et à l'écouter, le matinal. Exactement. À suivre sur RMC, la minute de Fredo. On parlera également Bundesliga dans quelques secondes avec Polo et son championnat 6 qui se dessine. Mais d'abord, l'Italie. Johan, avec une équipe qui séduit depuis le début de la saison. La Lazio. Adversaire d'un club français cette semaine.
De Nice.
Et ce sera jeudi soir sur RMC. Ce sera à Rome à 18h45.
Exactement.
Mais pourquoi faire cette Lazio? C'est quoi le projet?
C'est un peu la question, parce que la Lazio part sur un nouveau cycle, évidemment, puisque ils ont laissé partir, ils ont vendu Tiron Immobilier, Luis Alberto est parti aussi cet été. Donc, deux des trois dernières grosses stars de la Lazio, avec Milinkovic-Savic, qui était parti un petit peu auparavant en Arabie Saoudite.
Tudor aussi est parti.
Oui, je sais pas si c'était une star, mais en tout cas, il y a un nouveau cycle clairement qui est enclenché avec un nouvel entraîneur, Baroni, qui évidemment a pas le CV ou la réputation même d'un Sarri ou d'un Tudor. Mais pour le coup, moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'a fait Baroni, à la fois à Lecce qui l'a fait remonter et qui l'a maintenu en Serie A, et aussi à l'Hellas Vérone où on lui a cassé l'équipe en deux au mercato de janvier dans une situation intenable. Il a réussi à maintenir cette équipe-là. C'était vraiment un exploit limite incroyable de Baroni. Et il a été accueilli un peu cet été avec un énorme scepticisme. On a des supporters de la Lazio qui manifestaient en disant voilà, où sont les ambitions de notre club. Baroni, c'est un mec qui joue le maintien avec Lecce et avec l'Hellas Vérone. Ils avaient été habitués quand même à Sarri pendant plusieurs saisons, ou même à Tudor qui était un très beau pompier de service. Donc il y avait aussi un certain scepticisme après donc les départs de Luis Alberto Immobilier et des recrues de joueurs qui jouer le maintien aussi, Dia à la Salernitana, Noslin à l'Hellas Vérone, donc Chauna aussi. Donc on n'avait pas des joueurs quand même qui avaient la réputation et la renommée qu'espéraient les joueurs de les tifosi de la Lazio, pardon. Et on a toujours ce sentiment avec la Lazio, c'est les années où ça va cliquer, ça va être très intéressant. C'est une équipe qui est capable de faire top 4, il l'avait fait avec Simone Inzaghi.
Où ça va cliquer?
Ouais, où ça va marcher, tu vois, où ça va prendre, où ouais. la mayonnaise prend.
Je connaissais pas l'expression. Ça se traduit en italien, peut-être.
Non, c'est d'Auxerrois. Oui.
C'est en anglais.
Ah, d'accord.
Ouais, exactement. Et donc, ces années-là, il y a la fameuse possibilité d'entrer dans le top 4. Mais sur la globalité, quelle est la position aujourd'hui de la Lazio dans le championnat italien? C'est top 6. Bordure top 6, parce que quand on fait les trois gros clubs du Nord, Inter, Juve, Milan, vous rajoutez le Napoli, la Roma, l'Atalanta maintenant, qui est une réalité claire du top 6, où est-ce qu'on met la Lazio? Quand ça clique bien, encore une fois, tu rentres dans le top 4. Et je trouve que les premiers matchs sont assez séduisants. Alors il y a eu des... Comme toujours, dans un début de projet avec pas mal de nouveaux joueurs, avec des joueurs qui viennent d'un niveau inférieur... À qui faut donner cette exigence au quotidien, cette régularité aussi des grands matchs, c'est ce qui fait les grands joueurs, cette régularité là. Il y a toujours des hauts et des bas, il y a des très hauts et des très bas. Le match à Udine était catastrophique, le match contre l'AC Milan était très bon. Donc c'est 10 points en 6 matchs, on n'est pas en train de parler d'un parcours de champion ou tout ça, mais...
Ils ont gagné 3-2 ce week-end au Torino. Ouais.
Exactement, et le match est vraiment bon de la part de la Lazio, le Torino qui était quand même en tête. Donc ils ont joué quand même, de mémoire, le Milan. Ils ont joué les deux surprises de ce début de saison avec l'Udinese et le Torino.
Ah, juste, excuse-moi. Quand on regarde sur son téléphone,
c'est plus de mémoire.
De mémoire, ça marche plus.
Mais justement, au début, je l'ai fait de mémoire, et là, après, je vérifiais sur la Fiorentina. Donc, il y a eu quand même des matchs durs, quoi, des confrontations, des match-up un peu difficiles, et ils s'en sortent plutôt bien. Et en plus, j'aime bien le jeu, cette capacité à garder le ballon, qui est un héritage de Maurizio Sarri, le jeu de position, mais aussi ce qu'a amené Baroni, ce qu'il est en train d'amener, d'inculquer, d'intégrer dans cette équipe-là, c'est une plus grosse dose de verticalité. C'est-à-dire être capable de garder le ballon, oui, mais pour amener de la verticalité et être capable au bon moment de casser les lignes de pressing, de toucher l'attaquant, d'aller chercher les joueurs de côté pour des 1 contre 1. Et en plus, il y a des vrais bons joueurs dans cette équipe-là. Quand vous regardez le secteur offensif, Zaccagni, Castellanos, Boulaïdia qui fait un gros début de saison, c'est intéressant. Isaksen, le Danois, c'est intéressant. Chauna qui arrive un petit peu derrière. Il y a du talent. Et en plus, on a maintenant une sorte de facteur X. Depuis qu'il a commencé à jouer avec la Lazio, ça va faire rire beaucoup de Marseillais ou du supporter de la Ligue 1. C'est Nuno Tavares. Nuno Tavares, incroyable, qui a le côté bulldozer et qui parfois est un peu maladroit, souvent diront certains.
Préviens-les que ça va durer 3 mois par contre.
Ouais, possible, possible. Mais tu sais, il y a aussi une chose, c'est que on le voit, la différence de physique entre Nuno Tavares et les autres. Parfois sur certains matchs, même contre le Torino, j'ai eu l'impression que c'était un adulte avec des enfants. Mmh. Il est ultra puissant, il les domine physiquement, il va vite. Et en plus, pour le moment, techniquement, sur toutes les techniques de centre, centre à ras terre, centre à mi-hauteur, centre devant le but, centre au deuxième poteau, il est là et il fait des très bons centres. 4 passes décisives sur ses 4 premiers matchs. La Serie A n'a jamais connu ça depuis 2020, depuis 2004. Ça fait 20 ans. Depuis qu'ils ont la data, depuis Copta, la data. Ça fait 20 ans qu'aucun joueur n'a réussi 4 passes décisives sur ses 4 premiers matchs en Serie A.
Après, le problème, c'est qu'il peut être à 4 toujours dans 6 mois, quoi.
Possiblement. Mais pour le moment, en tout cas, il apporte. Et quand on rajoute Guendouzi, qui a toujours cette importance-là au milieu de terrain, on est vraiment sur un effectif, je trouve, de qualité. Lotito est accusé de pas assez recruter, de pas mettre assez d'argent. Avec l'argent qu'il a mis, moi, je trouve que l'effectif est de qualité et le jeu, pour le moment, est assez séduisant.
Les Niçois sont prévenus. Ce sera jeudi à 18h45 pour cette deuxième journée de Ligue Europa. La Bundesliga sur RMC à 21h23. On a parlé tout à l'heure, Polo, du Top Spiel, ce Bayern. D'ailleurs, c'est un peu les deux seules équipes dont on avait parlé la saison dernière. Mais là, on se dirige peut-être, Polo, vers un championnat totalement différent avec plein d'outsiders qui sont là, quoi.
Bah oui, parce que en fait, depuis le début de la saison, on a aussi parlé que deux choses. C'est un, est-ce que Leverkusen est capable de refaire sa saison du siècle de l'année dernière? Personne n'y croit. Et puis surtout, la réaction qu'on attendait du club munichois et ce qu'ils sont en train de faire. Mais on oublie un peu les autres. Et le 1-1 de ce week-end, évidemment, ça favorise Leipzig qui a éclaté Augsbourg. Mais à la rigueur, ils avaient fait 0-0 contre Saint-Pauli le week-end dernier. Donc c'est pas forcément parlant. Mais si tu rajoutes ce qui s'est passé à Wolfsburg, le 2-2 de Stuttgart avec des erreurs d'arbitrage dramatiques, d'ailleurs j'aurais pu en faire ma minute, l'arbitre FIFA Jablonski est souvent interrogé le lendemain dans des émissions spécialisées pour le football et on lui demande presque de faire des contritions. Donc Fred et moi on commence à vieillir, moi les témoignages comme ça, les contritions en place publique, si tu veux, ça me rappelle des mauvais souvenirs d'histoire, mais c'est des choses comme ça. Et moi, ça me plaît pas du tout ce qui se passe en Allemagne par rapport à ça. Évidemment, la victoire de Francfort à Holstein Kiel, après leur couac en Europa League, le 3-3, alors qu'ils menaient 3-1 après 86 minutes. Là, c'est pareil, c'est inconstant, mais ils sont deuxièmes ce soir. Dortmund, qui a encore dû être mené 2-0 dans le petit derby contre Bochum, qui finalement l'emporte 4-2 avec un doublé de Guirassy. Et puis, je crois que j'ai cité les 6 que je voulais. Ouais, Leverkusen, Dortmund, tac-tac. Oui. Et donc, finalement, on risque d'avoir un championnat beaucoup plus serré qu'on veut le voir, surtout par rapport au niveau de certaines équipes. On a un peu parlé cette saison de Stuttgart déjà. L'inconstance de Francfort, de Leipzig et de Dortmund, s'ils arrivent à régler ça, je pense que ça peut faire un championnat 2024-2025 assez exceptionnel et qu'on n'a pas vu depuis longtemps.
Et ce sera à suivre tous les lundis avec toi, Polo, dans Génération After. Spécial drôle de dame. Dans un instant, on parle de l'Espagne, la première défaite du Barça en Liga. On parle également de l'Angleterre avec le quadruplé exceptionnel de Cole Palmer en une seule période. Mais d'abord, attention, il a mis la barre haut tout à l'heure. Il s'est emballé, il nous a dit « j'ai du lourd avec ma musique ». Tout de suite, c'est la minute de Fred. Shakira ?
Ben ouais !
Ah ben oui !
Oh, bravo Fredo ! Bah t'as gagné.
Ouais,
ben
c'est ouais. Gagné, non, Shakira. Ah, oui. Aïe, Madrid, je te laisse Madrid. Et dis notamment avec ta bouche au goût d'anis, parce qu'on boit beaucoup de l'anis à Madrid. Ah. Voilà, donc très belle chanson de Shakira qui est une chanteuse fabuleuse. Moi j'aime beaucoup. C'est vraiment très bien. Alors, c'est pas de la grande musique, mais c'est de la musique extrêmement bien produite. Les paroles sont très sympas, les musiques sont bien.
Premier tour de Roland Garros. Hein.
et Shakira, pourquoi j'ai choisi? Parce maintenant qu'elle est colombienne. Ouais. Et je vais vous parler du joueur colombien le plus connu au monde, James Rodriguez. Et non pas James, hein, vous le savez maintenant, James Rodriguez. Alors James Rodriguez qui joue au Rayo Vallecano.
Oui, c'est vrai.
Alors il n'est pas venu pour le projet sportif, vous en doutez bien. Il n'est pas venu pour l'argent, vous en doutez bien, parce que le Rayo, ils n'ont pas une thune, même s'il a un salaire correct, mais enfin, mais qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'il a pu gagner au long de sa carrière. Mais comme beaucoup de joueurs passés par l'Espagne, je vous rappelle qu'il a joué au Real Madrid, et surtout les joueurs passés par Madrid, il veut absolument revenir à Madrid, et il a eu raison.
jouer au Rayo, ça lui permet encore de s'amuser, de rester en forme, d'être un peu compétitif et surtout de vivre dans une des plus belles villes du monde, en tout cas pas pour vivre. Et pourquoi James, on en parle? Parce qu'il était titulaire ce week-end pour le petit derby entre Rayo Vallecano et Leganés, un partout. Et James était titulaire pour la première fois, il a joué 63 minutes et il a été élu MVP du match. À 33 ans, une expression espagnole dit quien tuvo retuvo, qui a eu a toujours, qui a eu a retenu, et il a toujours, il reste un joueur avec une classe exceptionnelle, avec une carrière malheureusement qui n'a jamais été à la hauteur du talent qu'il avait au départ.
Fredo, merci pour cette minute. L'histoire était pas mal, mais là, vraiment la musique.
Allez,
était vraiment...
plus fort Polo.
Ah, je vais rentrer à 22h, je vais ouvrir Spotify, je vais mettre le best-of de Shakira, je pense. Whenever, wherever. C'est magnifique. Waka, on
a jamais... c'est encore mieux en espagnol quand tu joues en espagnol.
Ouais, je comprends pas les paroles. Allez, dans un instant, l'Espagne avec le Barça qui a été battu pour la première fois en championnat. On va parler également du quadruplé de Cole Palmer. La minute de Johan Crochet. Alors là, maintenant, la barre est tout là-haut. Johan, bonne chance. Et d'abord, un détour par le direct. La 7e journée de Ligue 2, Guingamp-Camp, Xavier Grimaud.
La 43e, toujours 1-0 pour les Guingampais. Le buteur, c'est Jacques Siouet. La 6e, c'est un moindre mal pour les Canets. Il y a beaucoup de frappes. Guingampais dans le une frappe de Grieb, deux frappes de Brighton Labo, une frappe de Siouet qui a trouvé le poteau de Mandrea. Et là, attention, il y aura peut-être un rouge pour un Guingampais où il frôle la correctionnelle avec une semelle qui mériterait peut-être un deuxième jaune. A priori, l'arbitre ne va pas le sortir. Donc Guingamp devrait rester à 11 et Guingamp est devant à une minute de la mi-temps. 1-0 pour les Guingampais face aux Canets.
Allez, 21h28, je rappelle le 32-16. Si vous voulez faire face aux drôles de dames dans un quart d'heure, c'est votre moment. Les drôles de dames seront à vous. A tout de suite sur RMC Génération After, spécial drôle de dames jusqu'à 22h.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Thibaut Giangrande.
C'est lundi soir, c'est Drôle de Dame sur RMC, comme toutes les semaines, 20h, 22h, Génération After spécial Drôle de Dame, exceptionnel ce soir pour lancer une magnifique semaine européenne qui nous attend sur RMC tous les soirs, tous les matchs, les afters, les libres antennes en direct jusqu'à 1h30 avec vous tous au 32-16. D'ailleurs, le 32-16, vous pouvez le faire dès maintenant si vous avez des questions à poser, si vous voulez interpeller nos Drôles de Dame. Elles sont toutes à vous d'ici une dizaine de minutes. D'ici là, la minute de Johan Crochet. On va parler également Premier League avec un quadruplé exceptionnel de Cole Palmer en une seule mi-temps. Mais d'abord, Fredo, le Barça a perdu pour la deuxième fois, puisque le Barça était tombé à Monaco, mais oui, pour la première fois en Liga.
Oui, jusqu'ici, il n'y avait que des victoires. Le Barça qui semblait imprenable. Ben, moi, j'adore Hansi Flick. Franchement, je trouve qu'il fait un travail merveilleux. Mais là, son inexpérience en Liga, son manque de connaissance de la Liga, lui a coûté très cher. Cette défaite 4-2 à Pamplune. Alors, Pamplune, c'est la Navarre, le club d'Osasuna.
Osasuna, ouais.
Alors, il est évident, tu l'as évoqué tout à l'heure, mais on va le rappeler, que la défaite à Monaco l'a perturbé et que le match contre les Young Boys de ce mardi est déjà essentiel pour le Barça en Ligue des Champions. Il a fait tourner. Alors, on sait qu'il y a beaucoup de blessures du côté du Barça, mais il a fait une chose qu'il n'aurait pas dû faire, c'est mettre sur le banc et Yamal et Rafinha, qui sont les deux joueurs en forme, les deux joueurs les plus dangereux.
D'ailleurs, Rafinha, podcast Espagne, tout neuf aujourd'hui, vous irez écouter ça à partir de minuit.
Quand tu vois le 11 du Barça, c'est Iñaki Peña, le gardien, puisque Ter Stegen est blessé. Tu as quand même beaucoup de jeunes, des noms que beaucoup de supporters de foot en dehors d'Espagne ne connaissent pas. Bon, t'as Jules Koundé, t'as Sergi Dominguez, Pau Cubarsí, Martin, Torre, Garcia, González, Pedri, Torres, Ferran Torres, Lewandowski et Pau Victor. Et le problème, c'est que s'il y a bien un endroit où il faut pas faire tourner, c'est Pamplune. C'est historiquement le stade de Sadar, c'est compliqué pour les grosses équipes. Et c'est un stade où le public est très puissant et très très près, il pousse beaucoup.
C'est Louis II, quoi.
C'est très compliqué. On sait très bien que c'est dans l'année pour les grosses équipes, c'est toujours un déplacement compliqué. Même quand Osasuna, en plus ils sont dans la première partie de tableau, ils sont très bien là.
Oui.
Mais ils étaient
Osasuna 7e là.
Ouais, et ils étaient, bah, je crois que c'était aussi 7e avant. Ou c'était 8e ou un truc comme ça. Enfin, en tout cas, ils étaient très bien avant le match. Donc, et même quand ils sont en deuxième partie de tableau, ça reste un déplacement compliqué. Faire tourner, on comprend, avant un match de Ligue des Champions qui peut être déjà important. Mais faire tourner autant, surtout en te privant des deux, des deux, ouais, des deux côtés là, c'est une erreur qu'il a commise. Alors on peut
on comprend aussi que ça va être bien vivement que Chesney arrive quoi. Peña, c'est, a priori c'est pas Lounine quand même, il fait pas un, bon.
Ouais, mais là-dessus je suis pas sûr qu'il soit vraiment coupable sur les buts quoi. Après Inaki c'est pas un très grand gardien, il a joué beaucoup de matchs l'an dernier parce que déjà Ter Stegen était blessé. On a bien vu qu'il ne pouvait pas être le remplaçant naturel. Donc mais on a dit suffisamment de bien de d'Hansi Flick pour dire du mal, voilà, c'est normal. Tu arrives dans un nouveau championnat, tu connais pas forcément l'histoire de ce championnat. Voilà, tu diras Osasuna, c'est bon. Ce qu'on lui reproche en Espagne, c'est d'avoir trop fait tourner et lui dire mais en fait pourquoi t'as pas commencé histoire de mener avec ces mecs-là
et tu les fais sortir. Après.
Voilà, ils sont entrés, c'était trop tard parce que, et je termine là-dessus, Osasuna, avec le public et la connexion avec le public, etc., et leur côté très, je veux dire, viril, on fonce, etc., Osasuna, c'est une équipe qui, une fois qu'elle commence à gagner, tu vois, ils sont dans une ambiance comme ça, où ils sont difficiles à retourner. Et là, ils ont joué au-delà de leurs possibilités. Il y a des buts qui sont magnifiques, hein, d'ailleurs, du côté d'Osasuna.
Le Barça qui reste leader, 7 victoires et donc une défaite après 8 journées, 3 points d'avance sur le Real.
Oui, le nul du Real les a servis, quelque part.
Exactement.
Après leur première défaite.
En Angleterre, Julien, historique, moment historique ce week-end pour Chelsea. Alors non pas le fait qu'ils aient gagné un match, parce que ça leur arrive un peu plus cette saison, mais quadruplé de Cole Palmer.
Ouais, extraordinaire performance, déjà historique, tu l'as dit, parce que jamais dans l'histoire de la Première Ligue, donc depuis sur les 30 dernières années, hein, mais quand même, aucun joueur n'avait marqué 4 buts en première période. Il l'a fait en l'espace de 20 minutes, quasiment, un pénalty, un coup franc exceptionnel. Une finition assez facile sur un service de Nico Jackson et ensuite un bon ballon en profondeur de Jadon Sancho. Il a fini au premier poteau, pied gauche. Un joueur extraordinaire. On le savait l'année dernière, on avait vu ce qu'il était capable de faire. On se demandait quand même s'il allait être en mesure de reproduire une saison, là, cette année, comme celle de la saison dernière, dans une équipe plus structurée, dans une équipe aussi meilleure. Mais l'année dernière, il s'est si bien exprimé parce qu'il y avait aussi, c'était un petit peu du n'importe quoi tactiquement de la part de Pochettino. Et donc, un joueur de rue comme lui, tu donnes le ballon, il peut faire ce qu'il veut, il a beaucoup de liberté, ça va forcément marcher. Là, dans un jeu un peu plus structuré, on va dire, entre guillemets, en tout cas avec Maresca, on se demandait s'il allait avoir la même efficacité. Et finalement, c'est une équipe de Chelsea qui est super intéressante à regarder. Vraiment belle à voir jouer, qui va tellement vite vers l'avant avec Madueke, avec Sancho, avec Palmer, avec Nico Jackson. Et c'est vrai que dans ce jeu-là, dans ce système-là, où ça va très vite vers l'avant, où il a encore beaucoup de liberté, c'est un plaisir à voir jouer. C'est donc 6 buts maintenant et 4 passes d'ess, puisqu'il avait déjà fait un match à 4 passes d'ess aussi contre Wolverhampton il y a quelques semaines. Donc c'est quand même un match à 4 passes d'ess, un match à 4 buts en Première Ligue pour lui en l'espace de 6 journées. C'est assez incroyable. Et moi j'adore parce que c'est un joueur de rue. Et les Anglais, on ne produit pas ce joueur de rue. On parlait de Griezmann tout à l'heure. Mais voilà, à part quelques-uns, comme un, on l'a dit, Gascoigne, comme un Odol, comme un Wilshere peut-être, comme un Rooney, ils ont pas, c'est pas leur culture de jouer dans la rue, c'est pas ce qu'ils font.
Cole Palmer, c'est la street, quoi.
Ouais, et lui, c'est ça, mais tu le vois de toute façon comment il joue, hein, et puis tu vois bien tout ce qui l'intéresse de toute façon, c'est la technique, c'est le ballon, c'est jouer comme il le faisait, j'imagine, quand il était plus jeune avec ses potes dans la rue, etc. Donc, c'est ça, et peut-être pour finir, le plus marquant, on va dire, entre guillemets, c'est qu'à la fin du match, on lui a dit bravo, 4 buts, c'est vraiment extraordinaire. D'ailleurs, ça n'avait jamais été fait. Il dit ouais, mais j'aurais dû marquer 6 ou 7. Et c'est vrai qu'il a deux grosses occasions pour marquer 2 autres buts. Il fait aussi deux ou trois grosses occasions pour les autres. Donc, il aurait dû aussi finir avec 2 passes d'ess facilement. Voilà, c'était un match parfait contre une équipe de Brighton, de notre ami Fabian Hürzeler, mon polo, qui a été très, très naïf sur ce coup-là, avec une ligne défensive tellement haute que c'en était à un point ridicule.
Ouais. Je te le reprends. Hein.
Oui, je te le redonne parce que là, il a un peu cru que c'était la Bundesliga quand même, hein, sans faire offense à la Bundesliga. Mais tu vois, là, il s'est dit la ligne, on va jouer haut parce que. Voilà.
Bon, et Chelsea, d'ailleurs, qui est quatrième de première ligue.
Quatrième, hein.
Ouais.
Sans faire de bruit, ouais, tranquillement, ouais, ils sont là, ouais. Ça se met en place.
Et combien de joueurs, là, 45, ils en ont au moins, combien?
Ils en ont encore beaucoup, mais là, c'est en train de se régler un petit peu dans le sens où on sait plus ou moins l'équipe titulaire. D'ailleurs, on a fait un très beau podcast anglais sur Chelsea avec Christophe Lelichon et Jérôme Sillon, que vous pouvez écouter d'ailleurs, où on revient là-dessus d'ailleurs. Et voilà, c'est bien. Alors quatrième, je sais pas s'ils y resteront parce que on a vu aussi par exemple qu'ils ont concédé beaucoup d'occasions, ils ont concédé 2 buts sur 2 grosses erreurs de Robert Sanchez, leur gardien. Donc tout n'est pas parfait, loin de là, surtout défensivement, mais offensivement, ils se créeront des occasions contre n'importe qui.
Il est 21h40, dans un instant, les drôles de dames sont toutes à vous. 32-16, vous nous appelez, vous êtes en direct sur RMC pour venir poser vos questions, interpeller les drôles de dames. Mais d'abord, la dernière minute du jour. Attention, c'est la minute de Yoann Crochet. Et on est sur du lover.
Tu lances ?
À ce soir, Fredo. Je suis pas disponible.
Roma Capoccia, Antonello Venditti, qui est un supporter de la Roma, romain. C'est lui qui a fait l'hymne de la Roma, qui a fait aussi le Grazie Roma, qui est diffusé à la fin des matchs quand la Roma gagne. Chanson pour évidemment parler de la Roma et d'un petit jeune, Nicolo Pizzilli, qui a marqué ce week-end, qui a permis à la Roma de ne pas entrer encore un peu plus dans la crise après le départ de De Rossi, les sifflets des supporters, l'équipe qui est très contestée encore une fois à Rome. Et c'est un nouveau jeune joueur sorti du centre de formation de la Roma, ça fait beaucoup. Beaucoup de milieux de terrain d'ailleurs, beaucoup de milieux sortent de cette équipe-là, de ce centre de formation-là. Je pense à, évidemment sur les dernières années, hein, les plus récentes, entre De Rossi, Pellegrini, Fratesi, Florenzi, qui était aussi un milieu de terrain avant. On a maintenant Pizzilli, qui est un jeune de 20 ans, qui a la tête bien sur les épaules, qui est pas trop fan des réseaux sociaux, Instagram. On lui dit comment tu vas fêter ce but-là, bon, je sais pas, je vais manger avec mes parents, et puis, voilà. Quelqu'un de très concentré sur sa carrière, qui pouvait partir en début de saison, mais Daniele De Rossi a dit non, il reste avec nous. Il avait déjà marqué avec Mourinho en Europa League. Et là, il a fait en plus une célébration tout fou, il n'en revenait pas. Voilà, un bon coup de fraîcheur dans une équipe qui est en grande difficulté, la Roma. Et un autre Romain, Romanista, qui peut-être un jour deviendra le capitaine de cette équipe-là, perpétuant la longue tradition qu'on a évoquée dans le podcast After Italy avec Jérôme Sio et Riccardo Fatti.
Merci beaucoup, Johan, après avoir dansé sur Shakira. Fin de soirée.
Bah oui, c'est là où on a les lumières, tu sais.
Chanson de 1972.
Eh oui, on a
cherché
que c'était pas tout.
Venditti, ouais, bien sûr. Il vient souvent au match. Quoi.
Et puis voilà, derrière, on nous balance ce générique dans les oreilles. C'est agressif. Là, j'étais à deux doigts de proposer à Johan de le raccompagner. Pff, terrible.
C'est pas son genre.
Dans un instant, c'est vous qui avez la parole sur RMC, c'est le 32-16. Vous nous appelez, vous venez vous poser vos questions au drôle de dame. Fred Hermel, Julien Laurence, Paulo Breitner et Johan Crochet sont tout à vous. A tout de suite sur RMC.
RMC, 20h-22h, Génération After,
Thibaut Giangrande.
Merci d'être là avec les drôles de dames sur RMC jusqu'à 22h. Ensuite, ce sera l'after avec Nico Jamin, avec Daniel Riolo, Walida Cherchour. Il sera bien évidemment question du séisme du jour, de la tristesse qui nous a tous envahis à l'annonce de la retraite internationale de Griezmann. Et bien évidemment, la mise au banc de Ousmane Dembélé par Luis Enrique. Rendez-vous à partir de 22h. D'ici là, les drôles de dames sont là et elles sont pour vous. Les drôles de dames face aux auditeurs, vous nous appelez au 32-16 et vous venez poser vos questions à Apollo, à Julien, à Fredo ou à Johan. Et on a justement Guillaume qui nous a appelé au 32-16. Salut Guillaume.
Salut tout le monde.
Sois le bienvenu dans Génération After. Guillaume, supporter de Chelsea, c'est ça ?
Et absolument.
On vient d'en dire un mot, on a parlé de Cole Palmer et tu as une question pour Julien ?
Oui, absolument. Bonsoir Julien. Je voulais savoir ce qu'il pensait un peu de la patte Maresca, dans le sens où on sent qu'il a ramené pour moi la petite flamme qui manquait, ou peut-être la pièce manquante aujourd'hui, où on sent qu'il a réussi à instaurer son identité, éventuellement un système de jeu. Et voilà, alors est-ce que c'est juste les prémices des tout débuts et puis il faut pas trop s'enflammer, ou est-ce que vraiment il y a quelque chose qui se crée et qui peut être vraiment très agréable pour la suite?
C'est une bonne question. Ouais. Alors dans le sillage de Cole Palmer en plus, qui est à mon avis une vraie locomotive pour cette équipe-là. Et il y a des choses vraiment très intéressantes. Moi j'aimais beaucoup la saison dernière, Maresca. Je pense que le club l'a pas aidé cet été avec tous les mouvements qu'on a connus, les achats, les ventes, le groupe à 40 000 joueurs qu'on a plusieurs fois décrit, qui n'était pas du tout de la faute de Maresca, le pauvre, qui voulait juste travailler en paix avec les joueurs qui voulaient, en tout cas les positions, les postes qu'il voulait. Et les joueurs avec une identité particulière pour son style de jeu à lui. Et donc je pense qu'il s'en est très bien sorti, même si ça n'a pas été toujours génial, ça n'a pas toujours été parfait non plus. On l'a expliqué un petit peu tout à l'heure, je ne sais pas si tu as entendu, sur, même sur le quadruplé de Palmer, où il y a encore beaucoup d'occasions concédées contre Brighton quand même. Tu vois, défensivement, ouais, bah, ça a été compliqué parfois. Il y a, c'est quand même, ça, ils sont assez exposés, parfois défensivement. Mais moi, je trouve qu'offensivement, en tout cas, il y a de très très bonnes choses. Contre West Ham, rappelle-toi, ils se sont très bien adaptés à la défense à 5 adverses. Ils ont piégé notamment cette défense à 5-là, parce que son plan de jeu à Maresca a été parfait. Donc il y avait vraiment des bonnes choses. Après, j'ai regardé tout à l'heure, il va y avoir quand même pas mal de tests où ils jouent à un moment, ils vont jouer Liverpool et Arsenal, je crois, ou Newcastle. Enfin, ils ont des séries de matchs un peu plus compliquées qui vont arriver là en octobre et en novembre. City, ils ont déjà joué, mais c'était la première journée. Mais il me semble qu'ils ont quelques comme ça des matchs un peu compliqués d'affilée à gérer. Donc on en saura un petit peu plus à ce moment-là. Mais n'oublie pas aussi qu'ils jouent quand même une Coupe d'Europe en bois. Où un Cole Palmer par exemple est pas sur la liste de l'effectif, donc ils vont pouvoir reposer des joueurs clés parce que c'est des matchs qu'ils vont gagner facilement même avec une équipe B. Donc non, moi je trouve que c'est vraiment, je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve que c'est vraiment intéressant pour l'instant.
Guillaume, t'es d'accord?
Oui, je suis relativement d'accord avec ça. Moi, ce qui me plaît aujourd'hui, c'est qu'il a l'air d'avoir pas changé énormément de choses, mais ne serait-ce que Palmer, de le remettre au centre. Et ouais. Parce qu'en fait, initialement, Enzo, il menait le jeu, mais beaucoup, en étant légèrement devant la défense, ou pas assez devant, en tout cas. Et ce qui fait que maintenant, t'as un créateur de jeu qui vient être derrière, et en même temps, par Palmer, qui est capable de créer des choses avec la vitesse sur les côtés. Enfin, voilà, il y a vraiment pas mal de choses. Je trouve que c'est nettement plus équilibré. Et c'est vrai que défensivement, il va nous manquer une ou deux pièces maîtresses. Mais ça veut dire encore des joueurs, mais c'est pas ce que ça veut dire, mais voilà, aujourd'hui, quand tu vois l'autorité, il arrive, il dit, moi, c'est 23 joueurs, moi, les autres, je les connais pas, m'entraîne pas avec eux, etc. Enfin, voilà, moi, j'ai l'impression qu'il met le point sur la table et qu'on l'écoute.
Merci, Guillaume, en tout cas. À bientôt, j'espère.
Bah, de rien, avec plaisir.
Bye bye. À très vite. Ciao. Tiens, un petit coup d'œil sur le résultat du soir. 1-0 pour Villarreal face à Las Palmas. C'est la mi-temps. 3-0 pour Bournemouth face à Southampton. C'est la mi-temps également. Cagliari mène 1-0 à Parme, 48e. Et Guingamp reçoit Caen. C'est la 7e journée de Ligue 2. Xavier Grimaud est au Rodeau.
Oui, c'est reparti en deuxième depuis une minute. Le gros tacle de Yann Mvila, là, qui a pris tout sauf le ballon. Il a pris un jaune, Yann Mvila. 1-0, et c'est logique, hein, ce score. Il devrait même être plus lourd pour les Guingampais. Un seul petit tir seulement pour le Stade Malherbe de Caen. La 47e, 1-0 pour les Bretons, qui pour l'instant remonteraient à la deuxième place, quatrième, mais deuxième, au même nombre de points que Grenoble et Dunkerque.
Pas mal, le Gareth Southgate français. Julien nous appelle au 32-16, supporter du Réal. Salut Julien.
Bonsoir. Alors, j'ai une question pour Fred, qui ne concerne pas le Réal, mais ça concerne Séville. En fait, j'ai déménagé à Séville et je suis allé au stade il y a 2 semaines contre Getafe.
Donc au Séville.
But de la légende Navas, comme tu as pu en parler la semaine passée.
Exactement.
Et en fait, j'avais une question. Quand je suis arrivé, le président n'a fait que se faire huer et il y avait des pancartes qui l'incitaient à quitter la ville. Et donc, du coup, j'ai demandé un peu aux alentours ce qui se passait, et tout le monde le déteste, et je voulais savoir si tu avais des nouvelles le concernant.
Alors, il faut savoir que le président actuel s'appelle José María del Nido, fils de l'ancien président José María del Nido, avec qui il est en guerre. Parce qu'en fait, le Séville n'appartient pas à ses socios, ça appartient à des gens. Donc, une partie des actions appartient au père, je crois que c'est 35% au père José María del Nido, qui a fait 3 ans de prison pour des malversations en dehors du foot, mais enfin, voilà, truc de construction, tu sais, de BTP, etc. Ah. Ça arrive. Il était président jusqu'en 2013. Et donc, il y a deux camps. Il y a le camp d'un côté du président actuel, et l'autre camp, il y a l'ancien président José Castro, qu'on appelle Pepe Castro, qui est allié avec le fils, qui s'appelle José María del Nido, et qui a été élu au mois de janvier dernier. Donc en fait, il y a deux camps qui possèdent chacun des actions et qui se battent pour la présidence. En fait, tout simplement, la moitié des gens sont avec une partie, l'autre moitié avec l'autre. Mais en gros, la plupart des gens en ont marre. Et les mauvais résultats sur le terrain, ils viennent aussi d'un désordre institutionnel qui dure depuis de nombreuses années. C'est-à-dire qu'il faut savoir aussi que c'est beaucoup d'argent aussi. Quand tu es président de Séville, tu es salarié. C'est pas comme les présidents du Real ou du Barça, où tu es, en fait, tu es un président d'association, tu gagnes pas d'argent. Là, tu es payé. Donc c'est un poste qui plaît beaucoup. C'est un poste de pouvoir et un poste en gagne de l'argent.
J'ai l'impression que Julien, il a voulu rentabiliser son 32-16. T'as une question sur City, c'est ça, pour Julien Laurence?
Tout à fait.
Allez,
j'en avais une. Mais merci d'abord à Fred pour sa réponse.
Avec plaisir.
Ensuite pour Julien, en fait, j'ai regardé le match du coup de City ce week-end contre Newcastle, et en fait, j'ai vu, comme l'avait dit l'autre fois Jallet, une équipe de baby-foot contre une équipe de handball, c'est-à-dire 10 derrière et de la possession, mais rien sur les côtés. On essaie de trouver une passe magique dans l'axe, mais il n'y a rien qui vient. Et je me suis dit, c'est bizarre, Guardiola, ça fait deux fois qu'il lui arrive la même chose, il ne trouve pas de solution. Donc je voulais savoir si là-bas en Angleterre, l'after anglais, est-ce que là-bas on lui tape dessus ou pas?
Sur Guardiola, tu veux dire?
Tout à fait.
De pas réussir à.
Alors déjà, ils ont pas l'after comme nous on a, ils ont rien qui nous arrive même pas à la cheville.
Il y a qu'un after de toute façon.
Non, même si ils ont été moyens, t'as raison à Newcastle samedi midi, en plus ils ont été gênés par le pressing adverse. C'était assez plat finalement dans la performance. Il est pas du tout critiqué. Mais même si on a eu des choses à redire, hein, après, notamment le match contre Arsenal aussi.
Voilà, Julien.
Ok, très bien.
Salut. C'est bon, t'as pas une question pour Polo, une autre pour Johan, on fait pas le grand chelem ce soir.
Polo, il fait que les grands championnats. Polo,
Non, il a fait l'Espagne.
Qu'est-ce qu'il a dit? Les Anglais.
C'est pas parce que ça a baissé.
Les Anglais n'ont pas Jeanne d'Arc non plus.
Bon, à bientôt Julien, merci d'avoir été là. Merci les drôles de dames. Ah, on a un but,
oui, bon.
Xavier Grimaud.
L'égalisation, Canes, signé Alexandre Mendy. Ouais, joli but, effectivement. Il est bien seul, hein, quand même, Mendy, sur un coup franc tiré par Yanem Villa. On est à une trentaine de mètres et effectivement, le coup franc est beau. Et la tête de Mendy, tout en extension. Là, il faut avoir des bons abdos pour monter aussi haut et placer cette tête croisée qui termine dans le petit filet de Basilio. Un partout entre Guingamp et Caen, ça leur pendait au nez, hein, aux Guingampais. Ils ont eu beaucoup d'occasions pour corser l'addition en première période. Désormais, tout est à refaire. Un partout, la 51e.
Merci Xavier. La suite de ce match est dans l'after dans un instant. Immense merci aux drôles de dames, Polo, Julien,
un plaisir.
Fredo, Johan, partagé. On vous retrouve de toute façon tout au long de cette semaine, hein, avec cette semaine européenne qu'on a bien lancée ce soir. La Ligue des Champions, la Ligue Europa. Vous serez là jusqu'à tard dans la nuit sur RMC dès demain. Dans un instant, c'est l'after. Nico Jamin, Walid Acherchour, Daniel Riolo. Bonne soirée sur RMC. Ciao tout le monde.
Génération After.